Le calcul mental et les pratiques en classe avec le jeu Elitis. Éric Trouillot, professeur de mathématiques et créateur du jeu Matador.
Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Je vais essayer de vous faire partager tous les jeux Matador et puis d'autres. Canopée Besançon est lancée dans une aventure d'édition de jeux numériques autour du chiffre en tout cas et du calcul. Donc je vous en présenterai pas mal. Dans un premier temps, avant de jouer, ce que j'aime bien, c'est placer un peu le cadre dans lequel ces jeux s'inscrivent pour donner un petit peu de, le mot est peut-être un peu fort, mais de légitimité au jeu. Parce que mine de rien, ce n'est pas anodin d'apporter du jeu dans une classe. On a forcément des intentions, qu'est-ce qu'on veut faire avec, etc. Donc je vous propose déjà de réfléchir un petit peu. Je vais vous présenter un peu comment je vois le calcul mental, comment je vois son enseignement. Alors, ça sera une vision peut-être plus proche du cycle 3. Donc j'enseigne au collège, comme il était dit, j'ai des 6e, 5e. Bon, je vais régulièrement dans des classes en cycle 3. Je suis plus près de par mon parcours du cycle 3 que du cycle 2, mais je vous proposerai aussi des pistes cycle 2, cycle 3. Et la plupart des jeux évoqués sont des jeux qui peuvent être utilisés au cycle 2 et au cycle 3. Un petit détail quand même pratique et important, toute la présentation que vous allez voir défiler accompagne mon propos, et surtout dedans, dans la deuxième partie, il y a tous les jeux qui sont résumés, la règle est résumée en quelques lignes, et puis il y a des photos, donc si vous souhaitez les réutiliser, avoir des liens, etc., vous pourrez récupérer la présentation, je laisserai cette présentation à disposition. Et je pense que c'est important si vous êtes un petit peu jeu, parce que, j'ai pas compté, mais il y aura bien une quinzaine, une vingtaine de liens de jeux différents. Alors entre le premier et le dernier, quand on quitte la conférence, on ne sait plus très bien les détails de chacun des jeux. Donc c'est très vite résumé et ça permet de les utiliser en classe, sachant que l'idée aussi dans cette conférence, c'est de réfléchir autour du calcul mental, mais aussi de pouvoir utiliser des supports dès demain, si ça vous dit, en cycle 2, en cycle 3, pour faire vivre le calcul mental. Alors, je vous propose donc quelques réflexions. Je vous laisse découvrir ce propos. C'est un propos de Michel Artigue, que les matheux connaissent bien. Et c'est vraiment une spécialiste du calcul. Et ce qu'elle dit là, en quelques lignes, résume assez bien la vision que j'ai du calcul mental. Et la vision, je pense, que beaucoup de gens ont. Ça tourne autour du fait que le calcul, d'une façon générale, calcul mental, calcul écrit, est souvent considéré, comme elle l'écrit, faisant partie plutôt de l'intendance et des choses un peu annexes, accessoires, qui n'est pas au cœur du sens. Pour moi, c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. Culturellement, c'est comme ça, en tout cas. C'est une sorte d'image d'épinal du calcul mental. Comme si tout ce qui était apprentissage autour du calcul n'était pas dans le sens et ne permettait pas de rentrer dans le raisonnement. Alors qu'en fait, quand on fait du calcul mental, vous verrez tout à l'heure, on est complètement dans le raisonnement et on jongle avec les nombres et on rentre dans l'univers des propriétés des opérations et on peut s'approprier plein de choses autour des nombres et des opérations rien qu'en pratiquant le calcul mental. Et donc, on est dans le sens. Voilà, donc on aura l'occasion de reparler de ces deux facettes, qu'est-ce qui est sens et qu'est-ce qui est technique, et comme s'il fallait les opposer, alors qu'à mon sens, il ne faut pas les opposer, les deux sont forcément liés. Et quand on fait du calcul mental, on navigue en permanence entre sens et technique. On aura l'occasion de le vérifier en jouant tout à l'heure. Et puis on parlera évidemment beaucoup d'automatisme, parce que quand on fait du calcul, l'idée c'est quand même, avec le temps, d'automatiser des choses et de libérer l'esprit pour faire des choses un peu plus compliquées.
Quelques repères.
Avant de rentrer dans le détail, quelques repères, juste des repères un peu généraux. On est à peu près tous d'accord sur l'importance du calcul mental. On est aussi dans l'enseignement, et puis pour la formation du futur citoyen qu'on est tous. On est à peu près tous d'accord sur le fait qu'on constate, en tout cas les études sont assez claires, nationales et internationales, on constate une baisse relativement importante. En tout cas, les dernières études sont quand même assez inquiétantes. Je fais juste référence à l'étude du CEDRE qu'a quelques mois, qui montre qu'en fin de collège, la proportion du nombre d'élèves qui sont en grande difficulté numérique avec les nombres et les opérations a fortement progressé, puisqu'on passe de 15 à 20%, c'est-à-dire en gros, donc on a un collégien sur 5 qui quitte le collège en ayant des difficultés avec le sens des nombres et le sens des opérations, ce qui est relativement inquiétant. Ce qui, se traduit dans la société parce qu'on en parle de plus en plus. C'était un mot qui était absolument jamais évoqué il y a pas si longtemps que ça, l'innumérisme. C'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. C'est un peu le prolongement de ça, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'élèves qui quittent l'école et qui n'ont pas construit de sens du nombre et de sens des opérations. Et ce sont ensuite des citoyens qui ont des difficultés avec le moindre petit calcul. Et dans notre monde complexe, c'est forcément un handicap si on ne peut pas faire rapidement un petit calcul mental, évaluer un ordre de grandeur, un pourcentage bancaire. Enfin, les exemples sont légion. Alors, c'est lié à ce que j'évoquais juste avant, ce que disait Michel Artigue. Il y a une sorte d'image d'épinal du calcul mental qui fait que, depuis très longtemps, le calcul mental est associé très souvent à la notion d'automatisme. Pour beaucoup de gens qui sont un petit peu en dehors du monde de l'école, quand on parle de calcul mental, on pense à « je dois savoir des choses par cœur, je dois savoir mes tables ». Le sens, en général, on n'évoque pas du sens, on évoque des connaissances et souvent des automatismes. Et cette image-là, elle a la vie un petit peu dure, et à mon sens, c'est dommage parce que, comme je le disais, le calcul mental, on jongle en permanence entre sens et technique, et il faudrait toujours jongler en permanence entre sens et technique. C'est-à-dire qu'en fait, les automatismes qu'on cherche à construire, il faut toujours essayer de les construire en y donnant du sens, de façon à ce qu'ils s'automatisent sur des choses vraiment comprises et assimilées, pour que ce soit vraiment des automatismes qui puissent durer. Et c'est un espèce de cercle vertueux qui commence dès le cycle 1, cycle 2, cycle 3, et qui va jusqu'à la fin de ses études. Tout automatisme, il faudrait qu'il soit construit sur des choses comprises, de façon à pouvoir accroître ces automatismes et de façon à pouvoir aller plus loin dans la découverte de nouvelles choses associées au sens, etc., etc. Et l'idée étant d'avoir, c'est vrai, de plus en plus d'automatismes. Plus on a d'automatismes, on en reparlera après, hein, mais plus on a d'automatismes disponibles dans notre cerveau, plus on est prêt à faire des choses un petit peu compliquées en calcul. Mais il ne faut pas focaliser là-dessus, c'est-à-dire que les automatismes, il ne faut pas non plus les apprendre n'importe comment et uniquement basé sur un apprentissage par cœur de ces automatismes, parce que là, ce sont des automatismes qui ne sont pas bien construits. Alors, les jeux dont on parlera après sont justement un des outils qui permettent de donner du sens et puis de travailler les automatismes.
Le calcul mental automatisé.
Alors, avant donc de jouer, je vous avais dit que je voudrais évoquer un petit peu les différents types de calcul mental. Alors, celui qui est le plus souvent évoqué, dont j'en parle à l'instant, c'est un peu cette image d'épinal du calcul mental, c'est donc le calcul mental automatisé. Alors, je vous liste quelques grandes lignes pour comprendre ce qu'on entend par calcul mental automatisé, mais le terme en lui-même est assez clair et assez évocateur. C'est quelque chose qu'on a en mémoire, donc ce sont des résultats ou des procédures automatisées, parce qu'il n'y a pas que les résultats. On peut aussi avoir automatisé un type de procédure de façon à pouvoir faire un calcul d'une certaine catégorie. Par exemple, pour ajouter 9 ou un nombre qui se termine par 9, on va ajouter la dizaine supérieure et retrancher 1. Voilà un exemple de procédure automatisée qui n'est pas un 6 x 7, 42, qui lui est un résultat automatisé. En général, c'est des choses qui sont assez stables dans le temps, c'est-à-dire que bon, les tables, c'est vrai qu'une fois qu'on les sait, c'est un peu comme le vélo, même si on ne s'en sert pas beaucoup, ça reste, on en perd un peu, mais ça reste quand même à peu près stable. Et comme je l'évoquais, bon, c'est un peu l'image grand public du calcul mental. Et ça, c'est la culture qui a installé ça, une vraie image d'épinal, où on voit un maître qui est un petit peu sévère, avec la règle à la main, l'élève sur l'estrade un peu tremblant, essayant de donner la réponse à une question du type 6 x 7. Donc voilà, c'est ça cette image un peu dure hein, du calcul mental qui parfois pour certains adultes évoque des souvenirs un peu douloureux. Donc ça c'est le calcul mental automatisé. Alors dans l'absolu, comme je le disais juste avant, c'est pas par là qu'on commence. C'est ce qui reste dans la tête des gens, dans l'image des gens, mais on commence avant de fabriquer des automatismes à essayer de fabriquer ces automatismes avec du sens. Donc ce qui commence dans l'apprentissage, c'est le calcul mental réfléchi. Alors avant d'arriver au calcul mental réfléchi, je vous ai mis une petite liste d'opérations. L'idée étant, je vous laisse la lire, l'idée étant de sentir qu'à un moment donné, vous allez vous arrêter, enfin ça va freiner, et donc vous allez sentir comme ça naturellement la limite entre le calcul mental automatisé et le calcul mental réfléchi. Bon, en général, là, on va tous s'arrêter. Bon, j'ai fait en sorte que ce soit un peu grossier, hein. On va tous s'arrêter après le 450 plus 550, parce que là, on se rend compte quand même que c'est un petit peu plus difficile. Cela dit, il y a des calculateurs prodiges pour qui la réponse peut venir tout de suite. Si c'est le cas, vous faites partie de cette catégorie-là. Mais en général, le 1392 plus 4687, ça, ça ne vient pas. Alors là, on est forcément dans le calcul mental réfléchi. C'est-à-dire que si vous voulez faire ça, bah, vous le posez, vous le faites avec la calculatrice. Ou si vous voulez le faire en mental, bah, il faut trouver des stratégies, des procédures. Et à partir du moment où vous êtes dans la procédure, dans la recherche du chemin pour trouver la réponse, vous n'êtes plus dans l'automatisme. Vous êtes dans le calcul mental réfléchi. Même chose pour les multiplications. Le début va bien. Et puis, alors, on peut caler à différents endroits. On a chacun d'entre nous, là on est nombreux aujourd'hui, on pourrait faire l'expérience. La partie automatisée, elle nous est propre. On a chacun nos automatismes qui sont liés à notre vécu, à ce qu'on a fait dans nos études, à si on aime ou pas trop les nombres. Enfin bon, il y a plein de paramètres qui interviennent. Et donc la partie automatisée, elle est vraiment individuelle. Le 6 x 17 n'est pas forcément un automatisme pour tout adulte. 6 x 15 en général, oui. 39 x 62, souvent, non. Je l'ai mis juste pour faire un petit clin d'œil à la notion d'ordre de grandeur dont on parle beaucoup dans les programmes. Bon, 39 x 102, ça fait partie de ces calculs qu'on ne va pas chercher à faire et à trouver la réponse précise mentalement. Mais c'est bien, par exemple, qu'un élève en fin de cycle 3 ou en début de collège soit capable de se dire eh ben, ça, c'est à peu près 40 x 100 et donc je suis autour de 4000. Voilà. Et ça, quand on est déjà dans ce type de calcul, dans la notion d'ordre de grandeur, on donne vraiment du sens aux nombres et aux opérations et on est dans autre chose que des automatismes.
Le calcul mental réfléchi.
Donc comme son nom l'indique, alors c'est pareil, hein, calcul mental automatisé c'est clair, calcul mental réfléchi, la dénomination est très claire aussi. Tout ce qui demande recherche de procédures, de stratégies. Partir du moment, comme dans les exemples que vous avez vus avant, partir du moment où vous êtes à chercher le chemin pour trouver la réponse, vous êtes dans le réfléchi. Alors le réfléchi, évidemment, il est valable à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'un élève en cycle 1 ou en cycle 2 ou en cycle 3 ou un adulte, la limite entre automatisé et réfléchi, c'est quelque chose d'évolutif. Et ce qui va être réfléchi au cycle 1 est appelé à devenir en partie automatisme au cycle 2 et ainsi de suite. Ce qui va être réfléchi au cycle 2 va être appelé à devenir en partie automatisé au cycle 3, etc. Donc l'idée étant de construire quand même des automatismes, pas que ça, hein, mais en tout cas d'en construire. Quand on fait du calcul mental réfléchi, ce qui est intéressant, c'est que l'automatisé devient un outil de façon à pouvoir mener à bien cette recherche de stratégie ou de procédure. Ce qui est important de préciser, c'est que quand on fait du calcul mental réfléchi, en classe, je vous donnerai des exemples tout à l'heure, sans forcément utiliser des jeux, on peut faire des petits moments de recherche de calcul mental réfléchi, proposer un calcul ou deux à la classe, et l'idée étant ensuite de mettre en relief les différentes procédures qui permettent de trouver la réponse. Et ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir des fois comparer, alors pas forcément dire celle-là est très bien, celle-là est pas bien, mais de mettre en perspective les différents chemins et de se rendre compte que tiens, ça c'est quand même pas mal parce que ça va vite, celle-là, cette procédure-là est bien parce qu'elle met en évidence telle propriété d'une opération, et à partir du moment où sur un calcul donné, on est capable de faire une, deux ou trois procédures différentes, ça commence à devenir intéressant. L'intérêt aussi du mental, c'est de le pratiquer à l'oral, donc de faire verbaliser et de faire parler les élèves qui ont trouvé le chemin qui leur a permis de trouver la réponse, de façon à entendre. Moi, ce que j'aime bien quand je pratique ça régulièrement avec mes 6e, 5e, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, on peut aussi apprendre en écoutant le chemin, le calcul qu'un autre a fait. Ce que l'écrit n'apporte pas, enfin moins en tout cas. Le mental, c'est intéressant pour ça. On apprend aussi par l'écoute des autres. Il y a une espèce de dimension un peu sociale dans la relation qu'il peut y avoir entre la classe quand on pratique le calcul mental. Et quand on fait du calcul mental réfléchi, ce que j'ai mis en dernier point, on est quelque part dans la résolution de problèmes. Parce qu'on a un petit problème à résoudre. Bon, il est purement théorique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habillage, il n'y a pas de contexte. Mais on peut très bien avoir à utiliser des propriétés opératoires qui fait qu'on est dans une forme de résolution de problème. Et c'est vrai que j'ai ajouté, ça peut nécessiter l'écrit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi forcément penser mental pur. On peut faire du mental pur, vraiment sans écrit. Bon, par moments, c'est bien. Mais on peut aussi très bien imaginer des situations où on a un petit support pour écrire des choses, de façon à pouvoir se libérer un peu aussi le cerveau de tâches un peu compliquées. Par contre, ce que j'aime bien aussi préciser, c'est que quand on fait du mental, il ne faut pas poser les opérations, c'est-à-dire les techniques opératoires. À partir du moment où on rentre dans la technique opératoire, on n'est plus tellement dans le mental. Donc moi, j'aime bien, en tout cas, je leur dis, on écrit, d'accord, mais vous les écrivez en ligne, vos opérations, de façon à ne pas poser. Parce qu'à partir du moment où on pose, on rentre dans un autre cadre. Quand on est dans la technique opératoire, je m'écarte un tout petit peu du sujet, mais d'ailleurs, on en parlera après. Mais j'aime bien dire, par exemple, que quand on pose une opération, on perd un peu le fil, le sens du nombre, globalement parlant. Vous savez, quand vous posez une addition, une soustraction, une multiplication, on raisonne par petits bouts dans la technique. C'est-à-dire, vous allez raisonner sur les unités déjà, après on va passer aux dizaines, on va passer aux centaines, et ça s'analyse très bien, on perd le sens du nombre. Hein, et on fait par petits bouts. On raisonne sur les chiffres qui composent le nombre, mais on ne raisonne plus sur le nombre. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, de temps en temps, les élèves, et puis nous aussi, ça nous arrive, on va écrire une grosse bêtise en posant une opération, parce qu'on a fait une erreur à un moment donné, puis on ne s'en est pas rendu compte. Et puis le nombre qu'on obtient, en termes de sens de nombre par rapport à l'opération posée, ça n'a pas de sens. Et c'est parce qu'on a perdu le fil du sens de la globalité du nombre et qu'on est rentré dans le détail du nombre. Donc je pense que les techniques opératoires, c'est vraiment... Voilà, c'est autre chose. On fait du mental, évidemment, hein, quand on fait des techniques opératoires. Mais si on veut vraiment rester dans le mental, faut pas rentrer dans les techniques opératoires. Alors, je vous ai mis quelques petits exemples. Alors ça, c'est des choses que j'ai repris. Cet exemple-là, 45 plus 17... dans un livre qui est édité par le réseau, d'ailleurs, qui s'intitule « Le nombre au cycle 2 ». 45 plus 17, c'est évidemment... Alors, pour nous, ça va être un automatisme ou quasiment un automatisme. Un élève au cycle 2, ce n'est pas un automatisme, c'est du calcul mental réfléchi. Alors, les 6 procédures qui apparaissent sont toutes des procédures qui font intervenir la notion de décomposition additive et soustractive. C'est-à-dire que pour ajouter 45 à 17, je peux décomposer ou 45 ou 17... en utilisant des stratégies additives ou soustractives. Je vous laisse regarder. Bon, les deux choses évoquées au départ, la recomptage et surcomptage étant évidemment des techniques qui ne sont pas très adaptées à 45 et à 17. Recompter 45 plus 17, ça serait très long. Et puis surcompter 17 sur 45 aussi. Et donc après, ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans les techniques de décomposition. Donc soit 10 plus 7 pour 17, 15 plus 2 éventuellement, 50 moins 5 pour 45, tout ça fait que pour arriver à 62, on peut utiliser toutes sortes de décompositions. Alors ce n'est pas l'une ou l'autre qui sera intéressante, c'est de voir que la façon dont on décompose les nombres permet justement de rentrer dans le cœur du nombre et de donner du sens. Je pense qu'un nombre, on lui donne du sens à partir du moment où on est capable de lui donner différentes formes. Donc de le décomposer notamment. C'est quelque chose qui est beaucoup évoqué par exemple par Bricio quand il parle des premiers apprentissages sur les nombres. Il insiste beaucoup sur la notion de décomposition. Les jeux que je vous ferai découvrir tout à l'heure, pour la plupart, parlent beaucoup aussi de décomposition. Je pense que c'est quelque chose qui est très très important pour rentrer dans le cœur du nombre. Je vous ai mis un autre exemple, cycle 3 là par contre. Donc sachant que 6 fois 15, a priori, c'est un calcul mental réfléchi pour un élève de cycle 3, même si pour certains élèves en fin de cycle 3, peut-être que certains auront automatisé le fait que c'est 90, mais il est évident que pour la plupart des élèves en cycle 3, 6 fois 15 ne sera pas automatisé en 90. Donc voilà quelques pistes. Par exemple, ça peut faire l'objet d'un petit quart d'heure en classe. 6 fois 15, petite recherche. Donc moi, c'est ce que je fais de temps en temps. Je vous montrerai comment tout à l'heure avec des classes de 6e. Un calcul, un petit moment de recherche. Donc là, ils peuvent écrire. L'idée étant de trouver une stratégie pour trouver 6 fois 15. Alors, piste possible. Alors évidemment, l'addition 15 plus 15, 6 fois, qui n'est pas une procédure géniale, évidemment. Si on a automatisé que 2 paquets de 15, c'est 30, on va pouvoir en faire 3 fois 2 fois 15. Si on a automatisé que 3 fois 15, c'est 45, on pourra le répéter deux fois. Alors, j'ai mis le 5 fois 15 plus 15. Bon, là, c'est une procédure qui ne sera pas beaucoup utilisée. Ça sous-entendrait qu'on a automatisé que 5 paquets de 15, c'est 75, ce qui n'est pas souvent le cas. Une procédure qui n'est pas très souvent utilisée, parce que je pense qu'on ne la met pas assez en valeur, pas assez en évidence, c'est la notion de décomposition multiplicative. Le 15 étant décomposable en 5 fois 3, le 6 fois 15 devient donc un 6 fois 5 fois 3. À la lecture de la multiplication, 6 fois 5, 30, fois 3, 90, ça s'inscrit. Alors, ça fonctionne bien à 15, évidemment, mais quand la décomposition multiplicative est possible, c'est quelque chose qu'il faut mettre en évidence parce que ça fonctionne bien. Ce qui est très souvent utilisé, alors je pense que c'est culturel parce qu'on l'enseigne beaucoup, je pense, principalement, c'est ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication sur l'addition. C'est l'idée de décomposer 15, par exemple ici, en 10 plus 5. Alors ça utilise la distributivité. Alors c'est là, par exemple, quand on fait du calcul mental réfléchi, qu'on met en évidence des propriétés opératoires. Donc là, on va mettre en évidence la distributivité. Et puis, en utilisant la numération de notre système en base 10, donc c'est pratique pour faire 6 fois 15, de faire 6 fois 10, et puis d'y ajouter 6 fois 5 pour arriver à 60 plus 30 qui fait 90. En plus, alors c'est vrai que cette distributivité est souvent utilisée parce que l'avantage, c'est que ça fonctionne dans tous les cas. C'est-à-dire que là, si j'avais mis 13 au lieu de 15, 13 étant un nombre premier non décomposable, je ne peux pas faire de décomposition multiplicative puisque 13 ne se décompose pas. Par contre, je peux toujours faire mon 6 fois 10 plus 6 fois 3. Et donc, c'est vrai que c'est une technique qui fonctionne bien, la distributivité. Voilà. Donc ça, c'était deux petits exemples de ce que ça peut donner en cycle 2, cycle 3. Et puis ça, c'est un petit exemple pour le plaisir, pour vous. Je vous laisse quelques secondes tourner un peu et faire votre choix. Je vous propose ensuite de lister, il doit y avoir une dizaine de procédures différentes. Donc je pense, je m'avance un peu, mais je suis presque sûr que je vais vous proposer des chemins ou des stratégies auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et vous vous rendrez compte de l'intérêt du calcul mental réfléchi, pratiqué comme ça, même entre adultes. Alors allons-y, je liste. Alors on est d'accord sur 600 pour la réponse. Donc je vous l'ai fait lister. Bon, ça c'est le petit clin d'œil. Si vous avez fait ça, c'est pas très bon. Ça c'est pas très très bon non plus. Donc là, il y en a 25, et dans le premier cas, il y en a 24. Alors, plus sérieusement, bon, la distributivité par paquet de 10 en décomposant 24, donc 250, 250, et puis 100. La même chose avec des paquets de 24, mais là, on se rend compte que c'est moins pratique parce que 5 fois 24, voilà, 120, donc ça marche déjà moins bien. Ça, je l'avais pas mis, et c'est des collègues qui, en conférence, me disaient, moi, quand je 20 fois 25, c'est 500, donc c'est automatisé. S'il y en a qui ont utilisé ça, c'est que vous avez automatisé le fait que 20 fois 25, c'est 500, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Alors ça, c'est très très bien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pensé, je pense que oui, puisqu'on est nombreux. 24, 4 fois 6, donc vous voyez... Le 25 fois 24, il devient un 25 fois 4 fois 6. Je vous laisse découvrir. On voit le résultat quasiment s'afficher sous nos yeux. Là, 100 fois 6, 600. C'est super performant. Là. Bon, évidemment, c'est lié à 24. Si je vous ai mis 23, ça ne marchait pas. Même chose avec 24 fois 5 fois 5. Si on décompose 25 en 5 fois 5, là, on est sur un 120 fois 5, 600. Ça, c'est pareil, je ne l'avais pas mis dans un premier temps. Et c'est des collègues qui, en conférence, qui me disaient, moi, quand je vois 25, je pense au quart de 100. Ce qui n'était pas du tout mon cas, par exemple. Moi, c'est un truc que ça m'a fait découvrir. Et donc, le quart de 100, donc 2400 divisé par 4, 600. Et effectivement, ça fonctionne bien. Donc, chaque fois que vous avez 25, vous pouvez fonctionner avec le quart de 100. Ça, c'est pour les matheux. Si vous avez automatisé que le carré de 25, c'est 625, ça va vite. Vous faites 625 moins 25. Et pour les super matheux, si vous avez automatisé que le carré de 24, c'est 576, ce qui n'est pas tout le temps le cas, et ben vous ajoutez 24 et ça fait 600. Tout ça pour dire que ce n'est pas l'une ou l'autre qui est... Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la diversité. Et ça, je suis convaincu que ce petit exercice qu'on vient de faire là, en 5 minutes, on peut le faire en fait à tout niveau. Cycle 1, cycle 2, cycle 3, vous pouvez prendre 5-10 minutes et vous proposer un calcul. Alors, il faut qu'il soit évidemment réfléchi pour le groupe que vous avez, parce que si vous avez des cycles 2, vous n'allez pas leur donner 25 fois 24. Voilà. Il faut adapter le calcul. Et l'idée étant après, de les faire causer. C'est-à-dire, moi j'ai fait comme ça, moi j'ai fait comme ça, vous le mettez après au tableau, première solution, deuxième solution. Alors s'il y en a trois ou quatre, c'est vraiment intéressant, parce qu'ils voient eux-mêmes que, tiens, oui, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. De temps en temps, on entend dans la classe un « ah oui », qui veut dire que « ah oui, ça, je n'y aurais pas pensé, en fait, hein, quand on est dans ce registre-là ». Et c'est vraiment intéressant. Et si vous répétez ça régulièrement, donc un petit coup, mais régulièrement, vous allez installer une espèce de gymnastique et les automatismes, ils vont se construire comme ça. Mais alors évidemment, c'est vraiment dans le temps. Hein. Ce n'est pas en 15 jours, c'est vraiment dans la durée, dans la durée. En fait, c'est en années. Hein. L'idée, ça serait de faire régulièrement ça pendant des années. Et si on est régulièrement dans ce registre-là, on construit des trucs. Hein. Je vous en parlerai tout à l'heure avec les jeux, mais moi, j'ai automatisé des résultats à force de jouer avec certains types de jeux et d'être confronté régulièrement avec la même opération. Et donc, j'ai automatisé des choses que je n'avais pas apprises à force de jouer et de rencontrer régulièrement ces situations. Mais encore une fois, là, c'est en mois, années. Ce n'est pas en semaine, c'est vraiment sur la durée.
Le calcul mental à l'envers.
Alors, dernier type de calcul mental, vous ne trouverez pas ça dans les programmes ou dans les livres. C'est quelque chose, moi, que j'essaye de mettre en avant. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Ce que j'appelle le calcul mental à l'envers, vous savez tous ce que c'est. C'est le principe du compte est bon. Donc, le compte est bon, c'est une cible. Vous avez un nombre cible. Les trois quarts des jeux que je vais vous présenter après la pause, ça sera dans ce registre-là. C'est un truc extraordinaire parce que quand on est dans le registre du à l'envers, en fait, on fait tout. C'est-à-dire qu'on se sert de ces automatismes, on fait du calcul mental réfléchi, on travaille les ordres de grandeur, parce que la cible que vous avez à fabriquer, faut déjà commencer par se dire c'est quoi ce nombre. En fait, c'est une sorte de quintessence du mental. On est dans plein de registres en même temps. Et de le faire régulièrement, ça fait travailler tout ce qu'on sait et ça ouvre des horizons nouveaux. L'élève est acteur. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le calcul mental direct, si je vous dites à un gamin 6 x 7, vous le mobilisez, il sait, bon, il est 42, il ne sait pas, bon, il va chercher, mais vous lui donnez une tâche qui est très claire, c'est balisé. Ce que j'appelle un peu le calcul mental direct, c'est-à-dire une opération, un résultat. Quand vous êtes dans ce registre-là, le calcul mental à l'envers, vous sortez complètement de ce registre-là. C'est-à-dire, vous donnez un nombre, vous allez donner d'autres nombres, et après, c'est choix. C'est-à-dire que l'élève, il doit choisir ses nombres et ses opérations. Et quand on est dans ce registre-là, forcément, on donne du sens. À partir du moment où on doit choisir, on donne du sens aux nombres, aux opérations. On est dans les ordres de grandeur. Et c'est très, très riche. J'aime bien le néologisme, l'automate avec un H. Donc l'automate ne fonctionne plus. C'est-à-dire que 63, cible 63, et ben après, l'élève, il doit se dire, c'est quoi 63 ? Alors, est-ce que je le connais ? Ah bah oui, 7 x 9. Mais je peux aussi faire 6 x 10 plus 3. Si je sais des trucs, je peux faire 5 x 13 moins 2. Etc., etc. Et en fonction des nombres qui sont à disposition, eh ben, les choix vont être validés ou pas. Par exemple, je pense à 7 x 9. Je n'ai pas de 7, je n'ai pas de 9. Bon, ben, j'essaye de faire autre chose. Donc, j'ai un 6, j'ai un 10, je peux faire 6 x 10, vous voyez, etc. Donc, on est vraiment dans le cœur du nombre. Alors, d'autres petites choses. Comme je vous le disais, on sollicite ces connaissances automatisées. On donne du sens aux nombres et aux opérations. Ah oui, alors un truc important, c'est un principe non naturel. C'est-à-dire que dans la vie courante, on ne se sert pratiquement jamais de ce principe du calcul mental à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il faut le pratiquer, il faut le mettre en action en classe, parce que naturellement, on n'est pas dans ce registre-là. Dans l'immense majorité des cas, on est toujours dans un registre direct. C'est-à-dire qu'on a une opération et on cherche le résultat. Et la mécanique à l'envers, ce n'est pas souvent le cas. Ça peut arriver, mais ce n'est pas souvent le cas. Et je pense que cette mécanique-là, elle est vraiment très, très riche. La décomposition du nombre... Hein, je vous en parlais tout à l'heure, avec le 45 plus 17, avec le 6 x 15. Et ben, quand on fait du calcul mental à l'envers, on est dans la décomposition des nombres, forcément. Parce que la cible, pour la fabriquer, je vais essayer de la décomposer. Et enfin, dernier point, il y a une sorte de ressort ludique naturel. La cible, on a envie de la fabriquer, donc comment je fais, etc. Il y a un petit ressort déjà un peu jeu rien que dans le principe, qu'ils soient habillés, jeu ou pas, parce que je vous présenterai des jeux tout à l'heure, Matador Trio notamment, que j'utilise beaucoup, qui sont clairement habillés jeu, il y a des dés, il y a des cartes, mais le calcul mental à l'envers, vous pouvez très bien mettre un nombre au tableau, donner des nombres, et puis hop, c'est parti. Mais le fait de l'habiller est quand même aussi intéressant. Pour terminer sur le calcul mental à l'envers, j'aime bien aussi préciser qu'on retrouve la dichotomie automatisée réfléchie. C'est-à-dire que, je vous ai mis deux exemples, si je vous dis 25, évidemment, vous pensez à 5 fois 5, mais si je vous dis 91, vous ne penserez pas tous à 7 fois 13. Hein, j'en vois qui sourit, donc voilà. Et 91 est dans la table du 13 et dans la table du 7. Alors, tiens, je vous disais tout à l'heure que j'ai automatisé des résultats. Moi, le 91, 7 fois 13, ce n'est pas quelque chose que j'avais appris et automatisé. On apprend pas. En France, on apprend les tables jusqu'à 10. Hein. Les Asiatiques apprennent les tables jusqu'à 20, par exemple. Les Japonais, les Coréens, les Chinois. Donc normalement, 7 fois 13, c'est appris. Bon. Et ben, à force de jouer, moi, j'ai automatisé le 91 en 7 fois 13. Quand je suis dans un jeu et que j'ai 91 à fabriquer, le 7 x 13, il vient tout de suite. C'est automatique. Donc, c'est quelque chose qui est devenu automatisé pour moi. Et bien, à force de pratiquer ce calcul mental à l'envers, vous allez automatiser des choses nouvelles. Voilà. Et l'idée, quand même, quand on fait du calcul mental, c'est quand même de développer ces automatismes. Il y a une notion de cercle vertueux. Hein, quand on fait du mental à l'envers, on est en permanence, on fait des allers-retours. Puisqu'on a une cible, comment je fais pour la fabriquer? J'ai des nombres, donc je regarde, et donc je suis en permanence dans du à l'endroit, du à l'envers. Et quand on est dans ce registre-là, eh ben forcément, qu'on le veuille ou non, on est dans le sens du nombre, dans le sens des opérations, dans les ordres de grandeur, dans les propriétés opératoires, etc. etc. Moi, ce que j'essaye de faire, alors c'est, la difficulté, c'est de trouver l'équilibre. Quand on est en classe, il y a tellement de choses à faire que... trop à faire, toujours. Donc après, la difficulté, c'est l'équilibre. Donc c'est, quand on fait du mental, je pense qu'il faut toujours essayer de faire les trois. C'est-à-dire, il faut travailler les automatismes, il faut faire des petits moments où on fait du calcul mental réfléchi, comme je vous disais tout à l'heure, et puis de temps en temps, il faut faire du à l'envers. Et là, quand on fait du à l'envers, bah, le jeu et le numérique, qu'on évoquera donc tout à l'heure, s'y prêtent alors là, merveilleusement bien. Je pense qu'on peut faire du calcul mental un peu classique, comme ça se pratique depuis des décennies et des décennies, sur tout ce qui est apprentissage direct, donc automatisme et puis réfléchi, en mettant l'accent sur la verbalisation et faire communiquer les élèves. Et puis quand vous faites des petites séquences de à l'envers, et bien utilisez des jeux. Et là, des jeux, bon, il y en a beaucoup. On en verra quelques-uns tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres encore, hein, que je ne vous montrerai pas faute de temps. J'ai voulu vous mettre une petite liste, je vous laisse découvrir. C'est du mental à l'envers, du cycle 1 jusqu'au collège. Si vous dites à un élève de moyenne section de cycle 1 de montrer 5 en utilisant les doigts, à partir du moment où on est capable déjà de dire que 5 c'est ça, ou que c'est ça, ou que etc., on est déjà un peu dans le à l'envers, on est dans la décomposition du 5, et puis c'est déjà un peu du à l'envers, on fabrique du 5, et on donne vraiment du sens au nombre 5. Hein. Ce n'est pas le 1, 2, 3, 4, 5 qui, lui, n'est pas forcément un vrai 5. Alors que ça, c'est 5, etc. Hein, bon, les deux vont ensemble, hein, compter et décomposer, mais c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, en fait, je pense qu'il faudrait compter, et puis, une fois que le comptage est fait, il faudrait toujours donner du sens au nombre qu'on a trouvé en le décomposant. Et en le décomposant, alors avec les doigts, on peut utiliser des cartes, on peut utiliser des dés, on peut utiliser des... Il y a des collections témoins, hein, du type la carte, le dé, par exemple. Je pense que c'est important, dans le à l'envers, ça met en évidence la notion de diversité du nombre. Il faut que le nombre il soit pluriel. Il ne faut pas que ce soit toujours dans le même registre, en fait. Donc alors après, cycle 1, donc cycle 2 pour le 10, cycle 3, 25... 56 égale, bon là on est cycle 3 collège, et puis moi le tout dernier là, enfin les deux dernières lignes, 7,5 à décomposer sur la forme d'un produit et d'un quotient, c'est la semaine dernière. J'ai des petits diaporamas de calcul mental dont je vous en parlerai tout à l'heure, et bien il y avait 7,5 et la question c'était décompose 7,5 sous la forme d'une somme, d'une différence, d'un produit, d'un quotient. Bon ben un élève de 6e qui est capable de dire que 7,5 c'est 7 plus 0,5, c'est 8 moins 0,5, donc pour la somme et puis la différence, que c'est 3 fois 2,5 et puis que c'est 15 divisé par 2, c'est déjà, alors on donne du sens aux nombres et aux opérations, et puis c'est déjà du à l'envers, et puis un petit côté créatif. Je pense qu'il faut toujours donner des moments où il faut être acteur, c'est-à-dire il y a des choix à faire. Faut pas, avec les nombres, il ne faut pas que ce soit toujours balisé dans le même sens, c'est-à-dire il y a un calcul, il faut trouver la réponse. Faut toujours, il y a des moments donnés où il faut donner la possibilité à l'élève de se dire qu'est-ce que je choisis ? Il faut choisir, quoi. C'est rigolo, hein, parce que moi, ça fait quand même, là, on est au mois de mars, donc on s'est lancé depuis le début de l'année. Il y a encore des élèves pour lesquels le fait de leur donner un nombre et puis de leur dire fabrique-le sous la forme de, bah, voilà, d'un produit ou d'une différence, eh ben, c'est un souci, parce qu'ils ne sont pas habitués à faire un choix. Voilà, c'est compliqué. Alors, il y a plein d'élèves pour lesquels ça va tout seul, ils aiment bien. Et il y en a pour lesquels le fait d'avoir à choisir, de faire un choix et de se dire, voilà, ça marche. Et ben, donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut travailler. Et quand un élève a dompté ça, bon, le sens commence à être installé, vraiment.
Petit détour.
Avant de rentrer dans les jeux, je vous parlais tout à l'heure de Bricio et des premiers apprentissages. Ben, c'est le petit détour que je voulais vous proposer. Moi, je pense que le à l'envers, il commence déjà dès le cycle 1. Je l'évoquais il y a quelques instants, quand je disais que si vous faites compter un enfant, imaginons une collection de 5 objets, en pointant le doigt, 1, 2, 3, 4, 5, donc la comptine numérique, j'arrive à 5, le fameux principe cardinal, c'est-à-dire que le dernier mot prononcé correspond à la collection, honnêtement, ça ne veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, il y a plein, ça arrive régulièrement qu'un gamin, il compte, et puis vous lui dites, alors finalement, il y a combien d'objets ? Et puis il recompte, 1, 2, 3, 4, 5. Mais il y a combien d'objets ? 1, 2, 3, 4. Eh bien, un enfant qui fait ça, c'est clair qu'il a le 5, il n'a pas construit le 5. Il ne sait pas ce que c'est que le 5. Le comptage, il faut en faire. Alors, Bricio en parle beaucoup. Si le sujet vous intéresse, il faut lire les deux derniers ouvrages de Bricio. Il explique, lui, pour lui, il y a le comptage numérotage. Ce que je viens de faire, c'est du comptage numérotage. C'est-à-dire que l'enfant qui fait 1, 2, 3, 4, 5, puis si vous lui demandez combien il y a d'objets qu'il répète, etc., pour lui, ce sont des numéros. Il n'est pas encore rentré dans le nombre. Le comptage, quand on rentre dans les nombres, il faut que ce soit du véritable dénombrement. Ça veut dire que le 5 prononcé à la fin soit un vrai 5. Alors, par exemple, un truc tout bête que j'ai trouvé intéressant, c'est que plutôt que de compter 1, 2, 3, 4, 5 en pointant, le fait de déplacer à chaque fois l'objet pointé pour fabriquer une vraie collection de 5, donc 1 et 1, 2 et 1, 3, jusqu'à 5, et je me retrouve avec mes 5 objets qui sont vraiment, qui fabriquent une petite collection bien, bien serrée. Rien que ça, c'est un petit truc intéressant, je pense. Il y a la notion de collection témoin, les cartes, les dés, donc le 5, c'est bien de l'avoir en vision dés ou en vision carte. Qu'il soit pluriel, en fait, le 5, qu'il ne soit pas que 1, 2, 3, 4, 5. Et alors, après, c'est là que je fais le lien avec le calcul mental à l'envers. Je pense qu'une fois que ça s'est fait, l'idéal, c'est étant de dire à l'enfant, le 5, est-ce que tu peux me le fabriquer de différentes façons, par exemple avec tes doigts. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il est capable, d'une fois qu'il a compté ses 5 objets, de dire, ben, les 5 objets, ça correspond à ça ou à ça, en changeant les doigts, pas toujours de la même façon, et ben là, on est vraiment dans le 5. Le 5, il est riche, il est pluriel. Et ça, je pense qu'il y a un lien, donc cette notion de mental à l'envers, on peut la faire vivre très tôt, dès le cycle 1, on est déjà un petit peu dans le à l'envers. On est déjà dans les prémices de le 3 plus 2, voilà, il est là, hein, le 3 plus 2 pour faire 5. Voilà, ça c'est un petit détour, parce que je pense que le à l'envers commence au cycle 1, et puis donc au cycle 2, cycle 3, et au collège, évidemment, sans problème. Puis le deuxième petit détour que je voulais faire avant d'en avoir fini avec la première partie, quand on parle du mental, évidemment, ça pose indirectement la question de l'équilibre entre l'écrit et puis la pratique écrite et la pratique mentale. C'est une position personnelle. J'ai pas la vision non plus complète du système pour avoir la certitude de ce que je vais avancer. Mais je pense que globalement, même si les choses vont dans le bon sens et avancent positivement, l'équilibre entre la pratique mentale et la pratique écrite, à mon sens, n'est pas très bon. C'est-à-dire, je pense que d'une façon globale, à l'école, au sens large du terme, hein, donc primaire, collège, etc., on ne fait pas assez vivre mentalement les concepts numériques. C'est-à-dire, les nombres et les opérations, vont trop vite à l'écrit. On est trop vite posé sur le cahier avec un stylo et on ne fait pas suffisamment vivre les choses mentalement avant de les installer à l'écrit. Je pense que l'écrit devrait peut-être être plus le prolongement, un véritable prolongement de la pensée. Alors que très souvent, on pose les choses à l'écrit en se disant « ça va être solide, ça va être bien installé ». Moi, je ne suis pas très sûr. En tout cas, ce n'est pas ce que je mesure depuis des années et des années que je pratique le mental. Et en plus, analyse a posteriori, moi, je fais de plus en plus de mental. Et ce n'est pas un choix forcément a priori. C'est parce que ça fonctionne bien, en définitive. Parce que le fait de faire vivre les choses vraiment mentalement, ça fonctionne bien et c'est plus solide ensuite à l'écrit. Ça ne règle pas toujours tous les problèmes à l'écrit. Enfin, faut pas non plus, faudrait pas croire que le mental règle tout. Mais je pense que pour beaucoup d'élèves, ça je me rencontre régulièrement, des élèves qui savent faire des petites choses à l'écrit et mentalement, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'écrire des choses, mais ils ne les ont pas installées mentalement. Et là, si c'est ça, ça ne tient pas très longtemps, forcément. Alors que dans l'autre sens, si le mental est bien posé et qu'on va vers l'écrit, alors j'en veux pour preuve, même s'il faut prendre ça aussi avec des pincettes, parce qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, mais les systèmes orientaux pratiquaient beaucoup plus le mental, parfois de façon vraiment très très forte. Exemple, j'ai mis la Mongolie, parce que j'ai eu il y a quelques années un gamin en 6e qui arrivait de Mongolie. Alors ça faisait deux, il avait dû arriver en CM1, donc ça faisait deux, il parlait pas encore très très bien la langue et il avait du mal à l'écrit. Mais alors en calcul mental, c'était absolument phénoménal. C'est-à-dire que le restant de la classe s'est demandé de quelle planète il arrivait, parce que bon, ça allait très très vite, il voyait tout, il comprenait très très vite. Donc j'ai essayé de creuser un peu, et alors il s'avère que sa maman était institutrice en Mongolie, et donc j'ai bien compris que dans le système mongol, ils font très très peu d'écrits en primaire, en calcul. Mental. Et l'écrit arrive vers la fin du primaire. Et les techniques opératoires arrivent après. Et alors là, c'était évident qu'au niveau mental, il était très très au-delà, mais de l'adulte moyen français, hein, si vous voulez. Il avait 11 ans. Hein. Alors, bon, c'est un exemple, hein, je ne veux pas non plus tirer une conclusion. Mais tout ça pour dire que... Et alors, à l'écrit, ça fonctionnait bien aussi, hein, paradoxalement. Il n'y avait pas d'opposition entre les deux. Donc, voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut ne pas avoir peur de faire du mental. Bon, maintenant, les programmes, enfin, en tout cas, les nouveaux programmes qui arrivent sont clairs. Hein. La dimension mentale, elle est quand même bien mise en avant. Les nouveaux programmes qui arrivent pour la rentrée prochaine, la cycle 2, cycle 3, cycle 4, la dimension mentale n'a jamais été aussi forte. Donc, on est quand même, depuis une vingtaine d'années, dans une vraie évolution, je l'ai mis, la évolution positive des programmes. Ce que je crains un peu, c'est qu'on n'a pas... On n'a pas la culture, en tout cas, des orientaux, ça c'est sûr. Et puis peut-être qu'il y a eu une période, il y a longtemps, il y a quelques décennies, où le mental était vraiment pratiqué, mais c'était un mental qui était peut-être, on va dire, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire vraiment axé sur les automatismes, l'apprentissage par cœur, qui n'est pas non plus la référence à retenir. Donc faut surtout pas dire faut faire du mental comme on en a fait, parce que ça, c'est pas très bon. Donc il faut trouver l'équilibre entre le sens et la technique, mais je pense qu'il faut développer la pratique du mental. Donc il faut mettre en place une culture qui n'est peut-être pas forcément installée, en tout cas diversement, suivant les endroits, ça c'est sûr. Hein. Moi, je me rends compte, en tout cas, alors je connais mieux le second degré parce que j'y suis, et je me rends compte que dans le second degré, il y a un chemin énorme à faire pour installer les pratiques mentales, parce qu'elles ne sont pas énormément installées, c'est évident. Et donc là, on est sur un problème de culture.
Pratique de calcul mental avec un diaporama.
J'ai intitulé ça, cette deuxième partie, calcul mental à l'école, oui, mais comment ? Alors, avant les jeux, donc, je vous propose de parler un petit peu de ce qu'on peut faire avec des diaporamas, et puis, mentalement, sans support, donc sans jeu, sans rien, un petit truc tout simple, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous choisissez un nombre, vous le donnez à votre classe et vous leur demandez de le décomposer mentalement sous la forme des quatre opérations. Alors évidemment, en cycle 2, vous n'allez pas leur dire somme, différence, produit et quotient. Vous leur direz avec les mots qu'ils connaissent et vous allez choisir le nombre qui sera adapté. Mais tout bête, vous allez par exemple donner 20 pour le cycle 2 Et donc, chacun va dans sa tête essayer de trouver quatre opérations pour fabriquer 20. Et puis après, le truc, c'est que vous... Alors, on ne peut pas faire parler tout le monde, évidemment, mais un ou deux vont donner l'addition, un ou deux la soustraction, un ou deux la multiplication. Moi, je procède comme ça. Ils aiment bien, on entend des choses différentes en plus. C'est intéressant. Si c'est au cycle 3, voilà, vous allez faire avec un nombre plus grand. Fin de cycle 3, collège, moi j'y mets des décimaux. Après, bon, on peut même imaginer, là j'ai pas de 4e, 3e, mais les années passées, je le faisais avec des fractions. On peut très bien imaginer, vous donner une fraction et de la décomposer sous la forme d'une somme, d'une différence, d'un produit et d'un quotient. Ben, c'est très très riche en termes de capacité mentale. Voilà, donc ça c'est un tout petit truc, tout bête. Ça va vous prendre 10 minutes et ça incite chacun... Vous travaillez les quatre opérations et il y a des choix à faire. Le fait d'être acteur, c'est déjà un petit truc qui est intéressant. Et puis donc le diaporama, je vous en parlais à l'instant. Alors je pense qu'il y en a qui pratiquent peut-être déjà parce que ça commence, c'est un truc qui s'installe vraiment ça. C'est simple, le diaporama que je vous présente, voilà, c'est, l'idée c'est de savoir manipuler un diaporama. Vous allez pouvoir mettre tout dedans, c'est-à-dire de l'automatisé, du réfléchi et du jeu. Moi maintenant, depuis quelques années, je fais des petites photos de situations de jeu, puis j'intègre les photos dans le diaporama. Et donc le diaporama, c'est pratique parce qu'il est sous les yeux de tout le monde suit. Alors maintenant, avec les années, on trouve un mode de fonctionnement, hein, ça évolue. Donc maintenant, le système, c'est, je leur demande, ils ont un petit cahier, et c'est le petit cahier mental. Donc les diaporamas, j'en ai une quarantaine sur l'année, et ils mettent les questions et les réponses sur le petit cahier. Donc ils sont numérotés. Voilà, on numérote les diaporamas. De temps en temps, on en fait des purement mentales, c'est-à-dire on n'écrit rien et on donne que les réponses oralement. Et puis de temps en temps, on le note, question-réponse. Donc on peut jongler avec les deux. Ce qui est intéressant, si vous vous y mettez, c'est qu'après, vous pouvez faire une petite progression sur l'année. Alors, vous pouvez les modifier. Moi, tous les ans, je change des trucs. Donc maintenant, je suis à peu près stabilisé. J'ai même ma progression en 6e, en 5e, en 4e, en 3e. Et puis, voilà, c'est pratique. Alors, nous, au collège, on se les a mis sur le serveur. Donc, on peut se les échanger entre collègues. J'ai ceux des autres, etc. On peut se les envoyer par mail. C'est assez simple, hein, ou par clé. Donc, c'est vraiment un truc qui est bien. Alors, je vous propose... J'ai essayé de mettre du cycle 2, du cycle 3... Donc mélanger un peu, et puis même un peu de ce que j'ai mis en 6e, 5e. Et puis dedans, je vous ai mis des questions automatisées, du réfléchi, du à l'envers et du jeu. Alors c'est une indication, hein. Alors après chacun fait ce qu'il veut, hein. Évidemment, on peut faire tout, on peut faire ce qu'on veut dans un diaporama. La dernière chose aussi que je voulais dire, c'est quoi ? Oui, c'est la taille du diaporama. Ça c'est un truc important. Moi j'ai longtemps fonctionné avec des diaporamas de 10 questions, c'était un peu long, j'ai mis un petit moment d'ailleurs avant de réagir. Je me rendais compte qu'à partir de la question 6, ça commençait à caler un peu, que ça bougeait, etc. Donc maintenant, je suis passé à des diaporamas de 6. Ça fonctionne très bien. Ça prend une dizaine de minutes et ça marche très bien. Et alors j'ai même cette année les 6 questions, toujours addition en 1, soustraction en 2, multiplication en 3, division en 4. Donc je mets tout le temps les 4 opérations. Je mets une situation de à l'envers en 5 et un jeu en 6. Voilà, donc j'ai un petit peu mon mode de fonctionnement. Voilà, ça fonctionne pas mal comme ça. Alors, en automatisé, donc vous allez voir défiler une série de questions. J'intègre la question, je mets la réponse, mais je ne mets pas tout de suite la réponse. Je leur demande de proposer la réponse. Donc, ils lèvent la main et puis on fait tourner un peu la parole. Alors, j'ai essayé de mettre du cycle 2. On va se rapprocher du cycle 3. Alors, on peut y mettre des compléments. Donc là, je suis dans l'addition. Donc là, voilà, multiplication. Là, on est dans cycle 3. Donc là, on est dans l'automatisé, un petit peu le travail des automatismes. On passe au réfléchi. Ce serait du réfléchi cycle 2, mais ça peut être aussi un peu cycle 3. Alors ça serait du réfléchi cycle 3. L'idée, mais je l'ai mis en 6e, ça, en début d'année de 6e. L'idée étant de voir que le 28-18, il marche bien, mieux... que le 28 plus 43 et moins 18 après. Donc l'idée étant aussi de faire apparaître dans le diaporama des petites astuces de temps en temps pour faire découvrir des choses. Et dans ce cas-là, par exemple, je le fais apparaître. Mais en général, c'est eux qui... Et alors moi, je leur dis, attention, il peut y avoir une petite astuce. Donc il y en a toujours qui trouvent. En général, c'est eux qui donnent la réponse. Il y a toujours un élève qui donne la réponse et qui propose. Alors, voilà, là, j'en parlais tout à l'heure. Avec le temps, on va vers une procédure automatisée. Là. L'idée étant de passer à un 100-1. Alors, Si vous pratiquez du calcul mental réfléchi dans la régularité, vous allez voir, les élèves, ils ont tendance très souvent à reproduire en mental les techniques opératoires qu'ils maîtrisent bien à l'écrit. C'est-à-dire que là, il y en a beaucoup qui vont essayer de poser, faire une espèce d'opération posée dans leur tête et d'additionner le 9 avec le 7, le 1, la retenue, etc. Très, très compliqué mentalement. Hein. Ça pompe énormément d'énergie. Et quand ils découvrent qu'on peut faire 100 moins 1, bon, en général, ils tiltent hein, quand même. Alors, il faut leur faire. C'est pour ça. C'est là que la régularité est fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut leur voir une deuxième fois, puis une troisième. C'est-à-dire, dans l'année, il faut le voir plein de fois, en définitive, pour que la procédure, elle devienne semi-automatisée avant d'être vraiment automatisée. Alors, les diaporamas, c'est deux par semaine. Voilà, bon, j'en ai une cinquantaine. J'en ai à peu près deux par semaine. Alors, j'y intègre de plus en plus, c'est quelque chose que je ne faisais pas, des petits problèmes. Quand je dis petits problèmes, c'est très court. Donc là, la proportionnalité, sixième, cinquième, la réponse, le passage à l'unité. Alors là, je le fais par exemple avec des cinquièmes, quand on le fait mentalement comme ça, de donner trois, quatre méthodes différentes. Parce qu'on peut faire le passage à l'unité, mais on peut... je reviens en arrière. Oui, bon, quatre stylos et le prix de 5, là, il n'y a pas 50 possibilités. Mais bon, si c'est 4 stylos et qu'on veut le prix de 6, par exemple, bon, on va chercher le prix de 2 qu'on va additionner, on va chercher le prix du 8, etc. Et c'est intéressant de mettre en évidence les différentes approches. On peut mettre de la géométrie, alors en faisant des petits montages, des petites photos, des petits diaporamas. Alors, ça peut être du texte pour le périmètre d'un carré. Et puis, ça peut être, je ne sais pas si je l'ai mis, voilà, du style géométrie dans l'espace, pour compter et puis visualiser dans l'espace le nombre de cubes. Ça, on l'a fait en 6e, 5e, il n'y a pas très longtemps. Donc l'idée de penser à calculer combien il y a de petits cubes si c'était le gros cube complet, et puis d'enlever les 8 petits cubes qui sont à l'intérieur. Donc ça nous fait un 64 moins 8, 56. Et puis, pour terminer, intégrer du jeu. Alors là, on arrive juste à la limite, on jouera donc juste après. Le premier jeu que je vais vous proposer, je vous explique pourquoi il y a cette diapo. Le jeu que vous allez voir en photo après, il s'appelle Trio, et c'est un jeu cible. Donc 48, c'est la cible. Et alors les élèves connaissent le jeu maintenant, et je leur demande comment est-ce qu'on peut faire 48 avec 3 nombres, parce que la règle de Trio, c'est avec 3 nombres. Donc vous verrez après, hein, on jouera. Donc je leur propose 3 pistes, mais c'est... Je leur demande, donc c'est eux aussi qui vont me dire 5 x 8 plus 8, 5 x 9 plus 3, 9 x 6 moins 6, il y en a plein d'autres évidemment. Et voilà, on se retrouve avec une grille de jeu. Alors on ne va pas jouer tout de suite, hein. Là c'est juste pour vous montrer le diaporama, le jeu on y joue après, hein, trio. Et puis j'intègre du trio et puis du matador. Donc là matador on va un peu plus haut dans les nombres, donc 72 c'est encore une cible, et vous allez avoir... à fabriquer 72. Alors je leur demande pour les préparer mentalement comment on peut fabriquer 72. Alors avec deux nombres, 9 x 8, 6 x 12, avec trois nombres. Et puis on retrouve les dés. Alors vous voyez bien sur la photo, oui ça va. Et c'est pareil, on jouera, donc ça va faire partie des jeux. Voilà.
Pratique de calcul mental avec des jeux de dés.
Autre jeu, alors là on va rentrer dans le monde canopée. Alors ça c'est le jeu, c'est le jeu que j'ai créé il y a quelques années, qui est édité par Canopée Besançon. Matador Flash, il est de 2010, donc il a 6 ans. Et en fait, c'est la petite boîte que vous pouvez retrouver là. C'est un prolongement du premier Matador. C'est un jeu pour faire vraiment du calcul mental, exclusivement du calcul mental. Alors que les boîtes de jeu que je vous présenterai après, Matador, il y a un plateau où il n'y a pas que du calcul mental. Le principe, toujours cible. Donc vous allez avoir une cible, et la cible va être à fabriquer avec des nombres qui sont donnés par des dés. Voilà la petite boîte en question, et voilà les dés dont je vous parlais. Alors je vous ai mis plusieurs photos de jeu, de situations de jeu, donc je vous explique. Il y a deux dés rouges qui donnent la cible, donc là vous avez 20, 6, donc on additionne, la cible c'est 26. Donc votre objectif, si vous êtes joueur, vous devez essayer de fabriquer 26. Et pour fabriquer 26, vous avez 5 nombres. Alors les 5 dés blancs, ils ont une particularité, j'en parle un petit peu, parce que c'est des dés qui sont originaux. Bon, je sais pas, oui, sur la photo, vous voyez, vous reconnaissez le cube. Là. Donc, d'ailleurs, en France, quand on dit dés, là, on pense forcément au cube. Il faut savoir qu'il n'y a, pas que le cube en dés pour le jeu. Il existe 5 dés qui sont parfaitement équilibrés, c'est-à-dire pour lesquels la probabilité d'apparition d'une face est la même. Quand vous lancez un cube, vous ne vous posez pas la question, vous savez très bien que le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6, ils ont tous la même chance d'apparaître, à moins d'avoir un dé truqué, ce qui peut évidemment arriver. Mais si le dé n'est pas truqué, les 6 faces sont équiprobables. Et ben, cette propriété-là, on la retrouve pour 4 autres solides. Il n'y a que 5 solides sur Terre qui ont cette propriété-là, qu'on appelle les solides de Platon. Et ben, vous les avez devant vous. Donc là, vous avez le tétraèdre, c'est le 4 faces. Donc c'est des faces triangulaires. Alors je ne sais pas si on voit bien sur la photo, on le lit en haut, hein. C'est 1. Le 1, il se répète tout autour, là. C'est en fait le seul dé qui n'a pas de face supérieure. C'est une pyramide. Donc vu que c'est un sommet supérieur, ce n'est pas une face. Donc le 1, il se répète et on le lit en haut. Là, vous avez donc le cube qui est sur 3. Là, vous avez un octaèdre, c'est le 8 faces. C'est un 8 faces, donc là, qui est sur 8, il va de 1 à 8. Donc les 8 faces sont équiprobables, de la même façon que les 4 faces du tétraèdre sont équiprobables, et de la même façon que les 12 faces du dodécaèdre, là devant le 7, c'est un dodécaèdre, donc il va de 1 à 12, qui est sur 7, on devine le 12, là d'ailleurs, qui est là, mais là, il est sur 7. La particularité de ce dé-là, il est très joli, bon là, on ne voit pas très bien, mais si on devine, c'est des faces pentagonales. C'est-à-dire qu'il y a en plus de la géométrie dans ces dés. Chaque face a la forme d'un pentagone, 5 côtés, c'est le seul. Tous les autres sont carrés, triangles, triangles, et puis là encore triangle. Et le tout dernier, vous avez là devant vous un icosaèdre. Si vous arrivez à replacer dans une conversation le mot icosaèdre, c'est très très bien. Donc c'est le dé à 20 faces. Et le dé à 20 faces, il est sur 18. Là. Et donc, vous avez compris la règle du jeu. 26, vous avez 5 nombres. J'ai pris une situation très simple en photo de présentation. Le but étant de fabriquer 26, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 5 nombres. Vous prenez ce que vous voulez. Et il faut, en prenant les opérations que vous voulez, il faut essayer de fabriquer 26. Alors là, évidemment, on est sur une situation début cycle 2 même. Hein. 18, voilà, il y a le 18 plus 8 qui est là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Oui, on peut faire 8 avec 7 plus 1, si on veut. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Il n'y a pas beaucoup de possibilités, là. En fait, il est très simple, mais il est assez... L'intérêt du jeu, c'est d'avoir plusieurs possibilités. Et quand on l'utilise en classe, de faire apparaître ces différentes possibilités et de les mettre un petit peu en comparaison. Alors là, voilà. Bon, là, vous avez compris la règle du jeu. Je vous mets une situation plus sympa, qui est juste après. Voilà, alors... C'est aussi une façon de vous dire que dans la boîte de jeu, il y a 3 dés rouges. Vous avez aussi un dé 6 faces rouge qui permet de jouer à un niveau un peu inférieur. Je reviens en arrière sur la précédente photo. Vous voyez, ça, c'est un vrai dé 10 faces. Donc, il va à 90. Ça va de 0,0 à 90. Donc, on peut aller jusqu'à 99. La cible maxi, c'est 99. Donc 99, évidemment, au cycle 2, ça sera un peu trop grand. Alors on a mis un troisième dé rouge qui limite, parce que vu que c'est un cube, on ne dépasse pas 60. D'accord ? Donc ça évite le 70, le 80 et le 90. Donc là, la cible, c'est 28. Contrairement au dé à 10 faces, là, on lit. On n'additionne pas les deux dés rouges, comme dans le cas précédent. Donc 28, c'est plus intéressant, parce qu'il y a plus de solutions. Pour faire 28, vous avez un 7... un 8, un 6, un 4 et un 4. Si vous jouez au cycle 2, il faut jouer, laisser la liberté totale d'opération et pas parler de ce que je vais évoquer maintenant. C'est la règle qui est plus pour le cycle 3 et le collège. La règle de base, c'est ce que je vous ai dit. Et puis la règle qui est plus intéressante d'un point de vue pédagogique, mais il faut avoir un petit vécu sur les opérations. Donc c'est pour ça que le cycle 3 s'y prête bien et le collège. On a mis un moment, enfin, en tout cas moi j'ai mis un moment avant de trouver une règle adaptée, parce que très souvent, bah, sur cette situation-là par exemple, en sixième, tout le monde va à un moment donné tomber sur le 4x7 ou le 4x6 plus 4, et donc j'ai mon 28, et pendant des années que le jeu fonctionnait, je disais aux élèves qui avaient trouvé, parce que ça prend 5 minutes, hein, on lance les dés, alors... En classe, il faut vous imaginer, il y en a un qui lance les dés blancs, un autre qui lance les dés rouges, et puis je note au tableau. Ce qui fait que toute la classe a les dés, a le tirage sous les yeux. Petit cahier, brouillon, bon, maintenant ils ont un cahier de calcul mental. Et puis le problème que j'ai rencontré pendant des années, c'est que si c'était une situation simple comme celle-là, je leur disais, bah, tiens, c'est bien, tu as trouvé, essaye de faire un calcul un peu plus compliqué en y mettant une soustraction, en y mettant une division, en essayant d'utiliser plusieurs nombres. Et bah, ça ne marchait pas, parce que vous le savez bien, un élève qui a trouvé, c'est fini. Voilà, il a trouvé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. J'ai trouvé, qu'est-ce qu'il y a manquiquiné à demander de faire un truc plus compliqué, alors qu'en plus, c'est rétrospectivement que j'y ai pensé, c'est que ça n'avait pas de sens. On n'arrête pas de dire à nos élèves, essaye de faire des choses simples, ne perds pas de temps. Alors là, j'étais en train de leur dire, fais un truc compliqué. Donc, j'étais pas très cohérent. Alors, l'idée a changé à partir du moment où on a mis des points sur les opérations. Donc, le principe que je vais vous donner maintenant, qui est cycle 3, hein, c'est vraiment pas adapté pour le cycle 2. Pour le cycle 3, c'est que non seulement il faut faire 28 avec le 4, le 4, le 6, le 7, le 8, mais il faut essayer de le faire avec le plus de points possible. Et les points, c'est les opérations qu'on utilise qui donnent des points. Alors, le principe étant d'inciter les élèves à aller vers des opérations qu'on a tendance un peu à fuir, donc la soustraction et la division, et les opérations contraires. Donc le principe de point est simple. Si vous faites une addition ou une multiplication, vous n'avez qu'un point. Plus c'est multiplié. C'est-à-dire les opérations, vous savez, quand on fait du calcul mental, naturellement, on va vers le plus et le multiplié. C'est les opérations à l'endroit, c'est pas les opérations contraires, elles sont faciles, etc. Et puis donc, si vous faites une soustraction, vous aurez deux points. Et si vous faites une division, vous aurez trois points. Donc là, ça change tout. Parce que si je fais 4 fois 7, les élèves, ils comprennent très vite. Ils ont trouvé, mais ils ont un point. Et un point, ce n'est pas bon, parce qu'ils savent très bien qu'il y en a un qui va faire avec 2, avec 3, avec 4, avec 5. Et donc là, c'est malheureux à dire, mais pour quelques points, vous pouvez rouler les élèves sans problème. Ça marche. Ils sont prêts à faire des divisions pour avoir 3 points. Voilà, il faut le savoir. Alors que si vous leur dites, essaye de faire une division, ben non, je ne fais pas de division. Voilà, donc ça marche, le système. Mais c'est garanti, hein, ça fait des années que ça tourne. Et là, vraiment... Alors, le but ultime étant, comme vous êtes tous très forts en calcul mental, je vous propose le truc, le coup matador. Alors, le coup matador, c'est fabriquer 28, utiliser les 5 nombres et faire 1 plus, 1 moins, 1 multiplié et 1 divisé. C'est-à-dire, c'est la quintessence du calcul mental. Vous savez, vous maîtrisez les 4 opérations et vous arrivez à les utiliser tous et à faire la cible. Alors, évidemment... Ça ne s'adresse qu'à ceux qui maîtrisent déjà un peu, qui ont une certaine maîtrise du calcul mental. Mais dans une classe de cycle 3, on en parlait tout à l'heure à la pause, on a tous des élèves qui sont très forts, enfin, qui sont forts ou très forts en calcul mental, puis on a tous des élèves dans nos classes qui ne sont pas très forts. Et ce principe de point fait que chacun peut y trouver son compte. C'est-à-dire, celui qui n'est pas très bon, eh ben, il va déjà trouver 4 fois 7. Bon, ma foi, il sait que ce n'est pas génial, mais il a trouvé quand même. Et puis, s'il a fait 4 fois 6 plus 4, bah, il a fait 2 opérations, c'est déjà pas mal. Puis celui qui est bon, moi, sur mes classes, c'est très clair, ceux qui sont à l'aise, maintenant, ils cherchent le coup matador, voilà, pour avoir le maximum de points. Donc là, je vous laisse chercher un peu. S'il y en a qui, comme vous êtes nombreux, vous allez forcément trouver. Je mets un peu la pression, hein, quand même. Une petite indication, vous avez le droit de diviser par 1. Alors ça c'est le truc. Très vite, l'astuce du divisé par 1, ça s'automatise. Alors là, c'est gagné. Bravo. L'addition est là, 4 plus 4. La soustraction est là, moins 6, ça fait 2. La multiplication, le 7 fois 8. Et puis alors après, il faut savoir que la moitié de 56, c'est 28. 56 divisé par 2, 28. Donc là, évidemment... Ça, c'est le genre de calcul qui ne sera pas maîtrisé par tous parce qu'il faut avoir automatisé, enfin, faut savoir que la moitié de 56, c'est 28. Alors, j'en ai un plus simple, moi. Mais chaque fois que je le dis, il y en a qui disent « Oh là, c'est pas très normal, votre truc », mais je vais quand même vous le dire. Le diviser par 1. Donc, si je fais 4 fois 6, 24, plus 4, 28, j'ai fini. Mais non, je n'ai pas fini parce que je fais 8 moins 7 pour me faire 1 et je divise par 1. C'est un peu tordu. Sauf que j'ai fait une addition, une soustraction, une multiplication, une division. J'ai automatisé le divisé par 1. Voilà, j'ai fait un coup matador. Et je vous garantis que là, l'année est bien avancée. Le divisé par 1 dans mes classes de 6e, c'est à peu près automatisé. Hein. pour l'immense majorité. Ça rapporte 3 points, voire un coup Matador. Et de temps en temps, à la fin du calcul, on a intérêt à faire un x1 pour avoir les 4 opérations. Là, ils mettent plus de temps à le voir. Parce que, voilà, bon. Donc, quand on est dans ce registre-là, vous devez vite vous comprenez qu'on est vraiment dans le sens des nombres et le sens des opérations. J'utilise mes automatismes, je fais du calcul mental réfléchi, je travaille les ordres de grandeur. Il y a une forme de, un peu de quintessence du calcul mental. Et l'intérêt de Trio, comme de Matador, comme d'autres jeux, c'est que ça s'adresse à tous. C'est que là, sur une situation de jeu, celui qui n'est pas très bon va de toute façon y trouver son compte parce qu'il va tester, il va essayer. Bon, il ne trouvera pas forcément, mais il va tester et il va utiliser ce qu'il sait faire. Et puis celui qui est fort, pratiquement systématiquement, maintenant dans mes classes de 6e, j'ai forcément un coup Matador qui est trouvé par 1, 2, 3, 4 élèves. Alors, quand il y en a un, parce qu'évidemment, il y a des tirages où on n'a pas de coup Matador. Je vous en mets un autre. Maintenant que vous êtes bien entraîné, vous allez forcément trouver le coup Matador, 38. Donc la cible 38, j'ai volontairement pris l'autre dé. Et là, vous avez un 4, un 5, un 10, un 1 et un 3. Et évidemment, il y a un coup Matador. 50 moins 12. Ouais. 5 fois 10, 3 fois 4. 50 moins 12 divisé par 1. Mais c'est très bon, mais vous n'avez pas le coup Matador parce qu'il n'y a pas d'addition. Là, alors, ce coup-là, il rapporte un point pour la multiplication, un deuxième point pour l'autre multiplication, la soustraction 2 points et la division 3, vous êtes à 7 points, ce qui est excellent. Ah oui, alors le coup Matador, on l'a fixé à 13 points. Pourquoi 13? Parce qu'on pourrait imaginer, dans des situations exceptionnelles, de pouvoir faire 4 divisions. Hein, imaginez, le tirage est possible, hein, vous avez 18 à faire. Vous avez 18 sur le dé à 20 faces, et puis 1, 1, 1 et 1. Voilà. Bon, c'est vraiment une situation extrême, là. Vous pouvez faire 4 divisions, qui feraient 12 points. Et donc, on a tenu à ce que le coup Matador soit... Il y a un petit bonus, d'où le 13. Voilà. Pas de proposition pour le coup Matador? Bon, je vous le donne, alors. 4 fois 10, moins 5, plus 3, divisé par 1, le fameux divisé par 1. 4 fois 10, 40, moins 5, 35, plus 3, 38, divisé par 1. Bon. Alors, ce qu'il faut faire, ça, c'est pas pour rechercher... Enfin, si, on pourrait chercher encore, mais j'ai mis les réponses. Ce que vous pouvez faire, si vous jouez en classe, c'est vous les laisser chercher un moment sur un brouillon. Donc, il va y avoir plusieurs solutions. Et ce qu'il faut faire de temps en temps, pas tout le temps, parce que ça prend quand même du temps, c'est au tableau de faire apparaître toutes sortes de solutions différentes et de les écrire. Donc là, par exemple... une solution en un point, une solution en deux, une solution en trois, en quatre, en sept, vous avez un coup Matador, et de montrer l'éventail. Alors moi, je ne le fais pas tout le temps, parce que ça prend quand même un peu de temps. Mais souvent, ce que j'essaye de faire, c'est d'écrire une solution facile, c'est-à-dire qui s'adresse à ceux qui ne sont pas forcément très forts, mais qui vont dire, ah bah oui, ça, c'était quand même pas dur, j'aurais pu trouver si je ne l'ai pas trouvé. Bah, du style 3 fois 8, voilà, là, 24, c'est 3 fois 8. Et puis de mettre une solution moyenne à 4 points ou 5 points, du style, voilà, ben, 15 plus 8, plus 2, moins 1, voilà. Vous avez fait 3 opérations, là, donc c'est déjà, ça demande un peu de boulot. Et puis pour les champions, bon, là, celui-là, il n'est pas facile. Hein. 8 plus 1, 9, divisé par 3, ça fait 3, 15 moins 3, ça fait 12, et fois 2, 24. Donc il faut quand même aller chercher le 24 en faisant un plus, un moins, un multiplié, un divisé. Donc, encore une fois, vous voyez, entre le 3 fois 8 et puis ça, ça s'adresse au plus grand nombre.
Pratique de calcul mental avec des jeux de plateau.
Juste pour cadrer un peu, tous les jeux que vous allez voir sont des jeux que j'utilise en classe ou pour certains, je vous le préciserai, sont au club jeu. Dans mon collège, il y a un club jeu, donc il y a un moment dans la semaine où il y a un temps club jeu. Ceux que j'utilise en classe, très souvent, c'est des jeux qui sont utilisables sur une courte période. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le second degré, on a ce problème, on a un peu cette déformation due au fait que les classes s'enchaînent d'heure en heure, c'est presque une frustration parce que l'heure est finie. Hop, même si c'est bien, c'est fini. De toute façon, ils sont attendus en SVT ou en français ou je ne sais quoi. D'ailleurs, c'est peut-être un des freins à la mise en place de pratiques ludiques dans le second degré parce que cet enchaînement, ce fonctionnement par tranche horaire n'incite pas à se lancer dans des choses qui sont un peu longues. Donc voilà, les jeux que j'aime bien utiliser, c'est des jeux qui sont utilisables 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, parce que sinon, en une heure, ça passe trop vite. Et on n'a pas le temps de faire autre chose. Alors, le premier jeu que je vous propose, c'est un jeu qui s'appelle Trio. C'est un jeu qui est constitué de 45, dans la boîte de jeu, vous avez 45 petits jetons. Alors, je dis boîte de jeu, petite parenthèse, c'est un jeu qu'on ne trouve plus dans le commerce, il est plus diffusé, très facile à fabriquer. Avec la photo, par exemple, vous pouvez reprendre la constitution, le nombre de 1, de 2, de 3, etc. jusqu'à 9. Il y en a 49, puisque vous avez devant vous 7 lignes de 7. Hein, alors la répartition, elle n'est pas uniforme, je ne sais plus, il suffit de compter combien il y a de 1, de 2, etc. Je vous mettrai tout à l'heure des liens Internet où on peut jouer en ligne. C'est-à-dire que vous avez maintenant, j'ai des collègues qui ont fabriqué ça, des générateurs de grilles. Donc c'est très simple, ça génère des grilles. Il y a même des petits logiciels que vous pouvez télécharger, installer, qui sont gratuits. Ça génère des grilles et vous avez à paramétrer le nombre cible, parce qu'on va être dans un jeu de cible. Ça, c'est le support de jeu. Que des 1 jusqu'à 9 et on va avoir une cible. Alors la cible, je vous mets le résumé de la règle. C'est pour ça que de récupérer le diaporama peut être intéressant. Vous aurez à chaque fois des situations en photo et puis un petit résumé de la règle. Donc le principe, c'est de fabriquer un nombre cible. Vous devrez toujours utiliser 3 nombres dans la grille. 3 nombres alignés, alors soit horizontalement, soit verticalement, soit en diagonale, n'importe où dans la grille, mais donc 3 nombres voisins. Donc c'est un petit peu le côté aléatoire du jeu. Là, votre regard va se porter en haut à gauche, en bas à droite, au milieu. C'est ce qui fait un petit peu le côté... dans un jeu, il faut toujours qu'il y ait un petit peu de hasard. Mais pas trop non plus. C'est un savant mélange entre hasard et puis raison. Mais donc là, voilà, vous allez voir, il va y avoir des différences. Il y a un petit peu de chance, suivant l'endroit où va se porter votre regard. Et puis, vous combinez ça avec les opérations que vous voulez. Addition, soustraction, multiplication, division. On peut, alors il y a plein d'adaptations possibles, on peut imposer des opérations, demander de jouer qu'avec un type d'opération, ou deux, il y a plein de choses possibles, hein. On peut vraiment adapter ça un petit peu comme on veut. Moi, en général, je les laisse libres, c'est-à-dire ils prennent les opérations qu'ils veulent. Il m'arrive de temps en temps de fixer une opération. Alors, on va donc jouer. 15, alors là, on est cycle 2, parce que je vous ai mis une adaptation cycle 2. Bon là, tout le monde va trouver 15, hein. Je joue en même temps que vous, hein. Moi je regarde, hein. Alors moi, quand je joue en classe, je regarde la grille, puis en même temps, je regarde ma classe, parce que, évidemment, voir qui lève la main. Si vous jouez en classe avec trio, ne donnez jamais la parole au premier qui lève la main, parce que sinon, ça va être beaucoup trop rapide, vous allez casser la dynamique de ceux qui sont un peu plus lents, qui ont besoin de plus de temps. En général, je laisse une minute ou deux. En sixième, on est sur des nombres autour de 40, 30, 40, 50... Là, j'ai mis un exemple, cycle 2. Pour rester dans le registre additif, parce qu'évidemment, si vous mettez 30, 40 ou 50, il faut passer dans le registre multiplicatif. Bon, le 15, forcément, vous l'avez trouvé. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Hein. Dites-moi où, alors, à quel endroit ? Alors, on va faire comme quand je suis en classe. Je demande à l'élève qui donne sa réponse de me donner le chiffre et sa couleur pour que je puisse montrer à toute la classe. C'est quel nombre avec quelle couleur ? Le 5 orange qui est là, alors. Et puis donc, je fais horizontal, 7 plus 5 plus 3. Voilà, on a le 15. Évidemment, il a plein d'autres endroits. Vous l'avez où aussi ? Ici, là ? Donc 7 et 6, 13 et 2, 15. Voilà, les trois rouges, là. D'ailleurs, petite parenthèse pour dire que les couleurs, a priori, n'ont pas d'utilité particulière. Ça permet d'avoir des couleurs, ça égaye un peu, il y a des couleurs différentes. Voilà, un exemple, cycle 2. Là, on est limite. Cycle 2, cycle 3. Je vous laisse chercher 21. Il est en bas, là. 5 fois 5, moins 4. Si vous voulez rester dans le registre additif, il est là. 9 plus 8, 17, plus 4, 21. Et souvent, les élèves, au début, quand ils découvrent le jeu, ils restent, évidemment, on commence dans le registre additif. On cherche à additionner les nombres. Alors, il faut laisser des petites cibles. Et puis, je crois que j'ai dû vous mettre une cible plus grande après, où vous verrez que le registre additif coince. Donc là, il y a plein d'autres endroits. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de donner la parole à plusieurs élèves dans la classe, parce que là, on peut jouer quelques minutes hein, avec Trio, et surtout d'entendre plusieurs solutions. Donc, il est là, 5 fois 5, moins 4. Il est là, si je fais 7 fois 3, hein, alors 7 fois 1 fois 3, par exemple. Il est là, si je le fais en addition. Là, 8 fois 2, 16, plus 5, 21. Alors, vous pouvez, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, imposer une opération, vous laissez libre. Vous pouvez imposer même deux opérations, pourquoi pas. Bon, c'est riche, voilà. On peut faire plein de choses avec Trio. Je vous en mets... Alors, voilà, 50. Alors, très souvent, en tout début d'année, c'est rigolo, c'est pas rare qu'un élève me dise, au bout d'un moment, « Mais monsieur, on peut pas. » Vous avez compris pourquoi ? Parce qu'ils additionnent, hein. Et ils se rendent compte qu'effectivement, là, pour arriver à 50, alors, j'ai dit, vous avez peut-être entendu parler de la multiplication. Ah oui, ça y est, donc c'est parti. Et là, on change de registre. Donc 50, il est pareil, il y a plein d'endroits. Hein. Il est au bas, là. Si on reste dans la multiplication, 5 fois 5, 5 fois 5, 25 fois 2, 50. C'est intéressant de les faire, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai montré dans le diaporama, je leur proposais des pistes, c'est-à-dire je leur faisais dire avant, moi je sais que la cible c'est 50, et je leur fais déjà raisonner sur 50. Donc comment est-ce qu'on peut fabriquer 50 ? 6 fois 8 plus 2, 5 fois 9 plus 5, 6 fois 9 moins 4, donc on va entendre plein de choses autour de 50, on travaille ses automatismes, on travaille les tables, voilà, on travaille plein de choses, et on est dans l'ordre de grandeur de 50. Alors, il n'est pas forcément dans les tables, si, 5 fois 10, donc comment je peux faire ? Et puis, vous pouvez leur demander de fixer une solution. On peut faire plein de choses différentes. Hein. Le 5 fois 10, par exemple, il est là-haut. 8 plus 2, 10, fois 5, 50. Il y a toujours plein de solutions différentes dans Trio. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est d'en écouter plusieurs. Il y a des collègues qui me disaient qu'ils utilisent Trio et de temps en temps, ils se donnent 10 minutes et l'idée étant de trouver le plus de 50 possible dans la grille. Enfin, la cible à plein d'endroits différents. Et si vous avez un tableau interactif, on peut même écrire... Alors moi, c'est ce que je fais de temps en temps, j'entoure les 3. Donc là, par exemple, je vais entourer le 5 fois 5 fois 2, il a été trouvé, on l'entoure. On va entourer le 8 plus 2 fois 5. Donc voilà, on en a 2, on va en trouver 3 et 4 et 5. Donc c'est encore une autre piste possible autour de Trio. Donc Trio, moi je pense que, en tout cas en 6e, 5e, c'est succès garanti, ils adorent ça. On entretient les automatismes, on est sur les ordres de grandeur du fait du nombre cible. C'est du calcul mental réfléchi. C'est assez simple parce qu'il y a 3 nombres. Je ne sais plus si je l'ai mis dans le... Non, je ne l'ai pas mis, alors je le dis. Au cycle 2, vous pouvez commencer en jouant à duo au lieu de jouer à trio. C'est-à-dire qu'avant de leur demander de travailler avec 3 nombres, vous allez leur demander de travailler avec 2 nombres. Et vous allez mettre une cible autour de 10-15. Et comment fabriquer 15 avec 2 nombres ? Donc là, on rentre dans la décomposition du 15, 9 plus 6, 8 plus 7, etc. Donc voilà, il y a encore la décomposition, donc c'est un jeu qui est vraiment intéressant. Sur le diaporama, vous récupérez ces deux liens-là, ces deux petits logiciels que vous pouvez télécharger et qui sont des générateurs de grilles, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, soit vous faites des photos si vous avez le jeu ou vous le fabriquez, soit vous installez le générateur de grilles et vous avez des grilles. Et vous pouvez, alors sur un des deux liens, on peut paramétrer la cible, c'est-à-dire vous pouvez mettre une fenêtre. 5, 15, 10, 20, etc. C'est assez bien fait. Il y en a un des deux, c'est Mac PC. Donc il y a deux versions, Mac ou PC. La PMP, c'est l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, dont je suis adhérent. D'ailleurs, on va avoir nos journées nationales à Lyon en 2016. Tous les ans, on a des journées nationales. Donc cette année, c'est à Lyon. On sera là au mois d'octobre. Et il y a des brochures jeux dans lesquelles vous retrouverez dans la brochure jeux 5 et 6 qui peuvent se commander, par exemple, sur le site de la PM. Il y a Trio en grille déjà prête. Donc c'est une façon éventuellement de se fabriquer le jeu assez facilement. C'est un jeu qui n'est plus du tout édité. Ça fait un petit moment. C'est un jeu allemand au départ et qu'on ne trouve plus. En tout cas, à ma connaissance, il n'existe plus. Canopée Besançon diffuse aussi des jeux de plateau. Alors, juste la photo du jeu. Matador Junior, c'est les mêmes dés, donc je ne vous parle pas des dés. Il y a un plateau de jeu en plus. Donc ça, vous pouvez vous en servir, pas en classe entière, ça peut être éventuellement en atelier. En fait, il y a un parcours de jeu. Vous voyez, des cases plus, moins multipliées. Et quand on tombe sur la case, parce qu'on se déplace, il y a des petites quilles, il y a un dé pour se déplacer, la case impose une opération obligatoire. Donc là, vous avez obligation de faire une addition. Mais vous pouvez soustraire, multiplier, diviser. Là, vous avez une soustraction obligatoire. D'accord ? Donc, même principe de jeu, sauf que vous avez toujours une opération imposée. Et la case point d'interrogation, qui est une case énigme, dans la boîte de jeu, vous avez 250 énigmes, je crois. Et donc là, on est dans un autre registre, donc c'est un peu plus riche, quoi. Il n'y a pas que du calcul mental. Alors que le Matador Flash, c'est vraiment calcul mental. Et pour les accros, d'ailleurs, on l'a mis en accroche de jeu, le jeu des accros du calcul mental. Donc là, vous avez des divisés possibles qui ne sont pas dans le junior. Vous avez des cases avec deux opérations obligatoires. Donc là, par exemple, le multiplier et le moins est obligatoire. Et puis, vous avez des cases 99 où il faut faire 99 avec les dés blancs. Et puis, il y a des cases pareilles. Point d'interrogation, c'est des énigmes. Mais là, les énigmes sont quand même d'un niveau... je dirais que ça, c'est plus un jeu pour ceux qui aiment le calcul mental, mais c'est à la limite pas très scolaire. Ça serait plutôt la version junior qu'on peut utiliser au cycle 3 et même au collège. Celui-là, il faut faire même attention, ça peut être contre-productif. C'est-à-dire, si vous mettez ça dans les mains d'un gamin qui commence à calculer, vous pouvez lui... Enfin, ça peut être dangereux, quoi. Il va se dire, oh là, impossible, j'y arrive pas, c'est un peu dur. Donc c'est plutôt pour ceux qui aiment ça et qui sont plutôt dans l'idée de défi, quoi, de vraiment se faire mal, entre guillemets, en calcul mental. Alors, autre registre, toujours Canopée Besançon. Ça, c'est des jeux qui ont été faits par un Parisien qui s'appelle Didier Faradji. C'est très intéressant. Ce sont des jeux qui allient calcul mental et stratégie. Il n'y a pas beaucoup de jeux où vous avez du calcul mental et de la stratégie. Alors, dans ce coffret Numériplay, là, c'est cycle 2, pour le coup. Il y aura le même en cycle 3 après. Vous avez trois jeux. Quadruplé, octuplé et cuplé. Alors, plutôt qu'un long discours, la photo pour quadruplé. Voilà, vous avez un plateau, 9 cases, ou rien, ou un point, ou deux points, ou trois points. Le jeu s'appelle quadruplé. Quadruplé, on pense à 4. Il faut essayer de fabriquer 4. Pour ce faire, vous avez 4 anneaux, ou vous êtes bleu, ou vous êtes jaune. Donc on joue alors un joueur contre un autre. Ou deux. Ce qui est bien, c'est de jouer à 2 contre 2. Hein. Moi, j'aime bien faire les jouer à 2 contre 2. Ça met un peu d'animation, enfin d'échange et de choix de stratégie. Et là, pour le coup, il y en a. Alors, vous imaginez, le bleu commence à mettre un anneau sur une des 9 cases. Ensuite, les jaunes, puis les bleus, puis les jaunes. Le but étant de fabriquer 4 avec ces 4 anneaux. Alors, 4, c'est quoi ? Eh bien, c'est 2... et 1, et 1, et rien, c'est 3, et 1, et rien, et rien, c'est 2, et 2, et rien, vous voyez. Donc on est dans la décomposition du 4. Sauf que l'intérêt de quadruplé, c'est que vous ne pouvez gagner que si vous empêchez l'autre de gagner. Donc très vite, les gamins, quand ils jouent, ils comprennent que s'ils ne bloquent pas l'autre, ben, a priori, il va gagner avant. Donc il faut jouer ces anneaux, mais il faut aussi surveiller l'autre pour l'empêcher de faire 4 avant soi. Vous voyez la dimension stratégique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Après, quand ils ont compris, ils se bloquent. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de gagnant, parce qu'on peut se bloquer. Et après, si les 8 anneaux sont placés sur le jeu, eh ben, le jeu continue, sachant qu'il y a une 9e case qui est libre. Et chacun son tour, on a le droit de déplacer un de ces anneaux vers la 9e case. Je vais vous mettre une photo. Donc ça, c'est la règle résumée. Et voilà une photo où c'est qui a gagné, c'est les jaunes, 2 et 1, 3 et 1, 4 et rien, voilà. Alors que les bleus n'ont pas fait 4. Alors imaginez qu'il n'y ait pas de gagnant, là, parce que là il y a un gagnant. S'il n'y avait pas de gagnant, c'est aux jaunes à jouer, et ben les jaunes ils peuvent faire que ça pour venir là. Et donc ils ont le 1 qui se transforme en 2. Alors si ça fait 4, c'est gagné. Si ça ne fait pas 4, ça continue. Et puis à ce moment-là, les bleus, eux, si ça veut jouer, ils peuvent venir de rien à 1, puisque le 1 serait libéré puisqu'il serait passé en 2, ou de 3 à 1. D'accord ? Et donc on est sur un vrai jeu de stratégie et de calcul mental. Bon, simple, hein, cycle 2, mais c'est vraiment assez intéressant. Alors vous avez le grand frère Octu 8. Donc là, vous allez jouer sur la décomposition du 8. Même chose, 4 anneaux bleus, 4 anneaux jaunes. Donc là, vous n'avez que des 1, des 2, des 3 et des 4. Pas de case vide, pas de 5, de 6, de 7, de 8. Et décomposition du 8. Alors le 8, un truc par exemple, alors il ne faut pas leur dire, mais ils vont vite comprendre qu'il ne faut pas jouer 4 et 3. Parce que si je joue 4 et 3, je ne peux pas me faire 8. Dans le sens où il n'y a pas de case vide. Je vais forcément faire 4 et 3, 7 et 1, 8, puis j'aurai un 9 minimum. Donc ça fait partie des choses qu'on va découvrir en jouant. Donc il faut faire 4 et 2. Si je fais 4 et 2, je peux faire que 1 et 1 après. D'accord ? Donc je n'ai pas trop intérêt à partir sur 4 et 2, parce que ça limite les choix. Donc il y a tout plein de stratégies. Voilà, c'est aussi un jeu intéressant sur toutes les décompositions du 8. Et là, pour le coup, il y en a pas mal. Alors je vous ai mis la règle en résumé. Et une photo gagnante, où là ce sont les bleus. 3 et 1, 4 et 1, 5 et 3, 8. Voilà, les bleus ont gagné, alors que les jaunes sont sur 9. Voilà. Donc ça, c'est encore un jeu cycle 2. Et vous avez l'équivalent pour le cycle... Alors j'ai mis cycle 2 et cycle 3, c'est plutôt cycle 3 pour le coup. C'est le même principe de jeu. Et dans la boîte, vous avez aussi trois jeux. Décadex, Magix 34 et Multiplay. Alors je vous ai mis le Magix 34. Alors là, on est clairement cycle 3. Vous avez face à vous un beau carré magique. Vous savez, les carrés magiques, ce sont des carrés dans lesquels les nombres sont tels que les sommes sont les mêmes en ligne. Donc vous pouvez additionner les quatre lignes là, ou en colonne, en quatre colonnes, ou les deux diagonales. Et si vous additionnez tout ça, vous trouverez toujours 34. D'où le nom du jeu, Magix 34. Donc c'est un carré magique d'ordre... de toute façon, les carrés magiques d'ordre 4, la somme magique, c'est 34. Pour la petite histoire, vous avez devant vous un des 880 carrés magiques d'ordre 4. Il y a 880 façons de faire un carré magique d'ordre 4, en mettant un 1, un 2, un 3, un 4, jusqu'à 16. Parce qu'après, on peut aussi faire des carrés magiques en dépassant le 16. Et alors à ce moment-là, on n'est pas de 1 à 16, hein, puisqu'il y a 16 nombres là. Et donc la somme magique n'est plus 34. Mais si vous restez sur 1, 16, et ben, la somme magique est toujours 34. Intérêt de ce jeu-là, il faut faire 34 avec ces 4 anneaux. Alors, vous avez évidemment les 4 lignes, vous avez les 4 colonnes, vous avez les 2 diagonales, mais l'originalité du jeu, ça j'en avais discuté avec l'auteur, c'est qu'en fait, il y a de mémoire 85 endroits où on peut faire la somme magique de 34, pas forcément en ligne ou en colonne. Exemple, vous avez des quadrilatères sympas, le rectangle là, si vous mettez sur 8, 12, 5 et 9, ça vous fait un beau rectangle, et ça fait 34. 12 et 8, 20, 29 et 5, 34. Et des 34, il y en a tout partout plein dans le... Enfin, il y a 85. Voilà. Et l'auteur du jeu me disait même que quand on connaît bien le jeu, il y a presque une géométrie du jeu. C'est-à-dire qu'on arrive à mémoriser des situations gagnantes et on est plus dans la géométrie que dans le calcul parce qu'on peut se souvenir des positions gagnantes. Vous voyez un peu le... Bon, là, pour le coup, il faut jouer. Hein, parce que moi qui ai joué quelques fois Magix 34, je n'ai pas de géométrie du tout du jeu. Hein, je suis toujours dans le calcul. Donc ça veut dire qu'il faut jouer beaucoup là. Mais des 34, il y en a plein. Hein. Vous avez le rectangle debout aussi là, vous voyez. Le 15, 14, 3 et 2. Vous additionnez, ça fait 34. Le grand carré sur les côtés doit faire 34. Hein. 13 et 16, 29, 33, 34. Voilà, donc, ouais, bon. 85, donc vous pouvez les chercher. Chacun son tour. Donc un jaune, un bleu, un jaune, un bleu. Et premier qui fait 34 a gagné. J'ai mis une photo gagnante. Les jaunes, bah, je vous parlais du rectangle jaune, voilà, du rectangle de horizontal, là, 8, 12, 5, 9. Les jaunes ont gagné, ils ont fait 34. De toute évidence, les bleus visaient la colonne qui est là, mais ils n'ont pas suffisamment bloqué les jaunes. C'est un jeu de blocage, c'est-à-dire que les quelques fois où j'y ai joué, on se rend compte que c'est autant le blocage de l'adversaire qui compte que sa propre stratégie, parce que si on ne bloque pas l'adversaire, en général, il gagne avant. Et donc c'est vraiment intéressant, on rentre dans le registre du jeu d'échecs, où il faut anticiper un, deux coups éventuellement pour se dire, voilà, je peux aller là et là, mais lui, il va... Vous voyez ? Donc là, c'est... Et pour le coup, c'est un petit peu casse-tête en termes même de calcul, parce que, au bout d'un moment, le 34, ouais, ça chauffe, quoi. Hein, mais vraiment, c'est quand même bien. Hein, c'est vraiment très, très bien. Alors, mon petit préféré, c'est pas Magix 34. Enfin, Magix 34, il est vraiment très joli pour le côté carré magique. Voilà, c'est vraiment... Il y a un petit clin d'œil au carré magique qui est très sympa. Enfin, c'est un beau jeu. Mais celui qui est très, très intéressant, qui est très riche, c'est Multiplay. Alors là, on va rentrer dans le registre de la multiplication. Vous avez un plateau de jeu avec des cases. Et là, on n'a plus que 3 anneaux. Et le principe est très simple. Il faut faire une multiplication avec ces 3 anneaux. Du style 3 fois 8, 24. 2 fois 6 et le 12. Donc, on se place sur 2 cases rouges parce que les nombres de 1 à 9... De 2 à 9 sont des cases rouges. Et les produits sont toutes les cases jaunes et vertes. Et je dis bien tous les produits. C'est-à-dire que vous avez tous les produits de 81, le plus grand produit, 81, 9 x 9. Et ça commence à 12, 2 x 6. Alors, pour des raisons de symétrie, il manque un produit. Ça, c'est Didier qui m'avait dit ça. Il n'y a pas le 10. Cherchez pas le 10, il n'y est pas. Parce que, évidemment, la symétrie ne vous a pas échappé. S'il avait fallu placer le 10, il y aurait eu un produit en trop. Donc, voilà. Enfin, il fallait enlever un produit. Donc le 10, il n'y est pas. Mais sinon, vous avez le 12, vous avez le 14. Tous les produits y sont une fois. Donc ce qui veut dire que quand vous allez jouer, vous allez viser un produit. Alors imaginez, je commence, je vise le 24. Donc je vais me mettre sur le 3. Voilà, les bleus jouent, ils se mettent où ils veulent. Moi, je me mets sur le 8. Évidemment, je pense au 24, mais le bleu, s'il veut ne pas perdre la partie, il est obligé d'aller sur le 24. Sinon, la partie est finie très vite. Donc, il me bloque. Donc, lui vient sur le 24, qui est là. Eh bien, lui, d'un seul coup, se trouve dans le registre du à l'envers. Moi, j'ai commencé ma partie dans le registre du à l'endroit. Je suis sur du 3 x 8. Et je place mon adversaire dans le à l'envers. Je l'oblige à se dire 24, c'est quoi ? Et donc, je l'oblige à se dire, 24, je peux faire 3 x 8, je peux faire 6 x 4, enfin, d'accord ? Et donc, il va, lui, à ce moment-là, se placer dans l'envers. Et petit à petit, c'est moi qui vais me retrouver dans le registre du à l'envers, parce qu'il va falloir que moi, je trouve une autre stratégie et qu'éventuellement, je le bloque. Donc, quand vous jouez à multiplayer, vous n'arrêtez pas de passer du à l'endroit ou à l'envers. Vous faites du calcul direct et puis en permanence, vous vous demandez ce nombre-là, comment je peux le faire. Ce jeu-là est très, très riche. Voilà. Ça peut durer longtemps parce qu'on se bloque. Voilà. J'ai vu des parties durer comme les échecs, une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça peut être long parce qu'en fait, Alors, comme les autres jeux d'avant, si le jeu est figé quand les 6 anneaux sont placés, ça continue. Chacun son tour, on peut déplacer un anneau d'une de ces cases à une case voisine. C'est-à-dire, tout à l'heure, moi, mon adversaire s'est mis sur le 24. Après, s'il veut, quand les 6 anneaux sont placés, il pourra passer du 24 au 9, ou au 4, ou au 42, d'accord ? Un anneau, une case voisine. Et moi, pareil, je joue. J'étais sur le 8, là. Le 8 m'intéresse plus, c'est à moi de jouer. Je peux aller sur le 21, le 12, le 49, etc., etc. Et ça dure, voilà. Et donc, il faut, en général, anticiper un coup, deux coups, de voir trois, c'est vraiment très intéressant. Là, les élèves qui jouent à ça, je vous garantis que l'étape de multiplication, ils comprennent très vite que c'est bien de les connaître, parce que ça aide, quoi. Et d'ailleurs, au début, ils peuvent jouer avec leur table, hein. On entretient les tables, donc ça leur permet aussi de progresser et puis de les apprendre. Ça donne du sens, voilà. Le jeu donne vraiment du sens au nombre. Donc la règle, en résumé, une photo gagnante, et ce sont les bleus qui gagnent puisqu'ils sont à 9 x 6, 54, alors que tout le monde sait que 6 x 8, ça ne fait pas 21. Voilà, donc les jaunes n'ont pas gagné. Et les jaunes visaient peut-être... alors est-ce que le 48 est dans les parages ? Alors des fois, on se fait avoir hein, parce que... Non, le 48, il n'est pas tout près. Tous les produits y sont. Hein, alors le 48, il est là. Voyez. Donc là, par exemple, il ne faut pas que je reste sur le 6 x 8 pour viser le 48 parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 déplacements, c'est pas bon. Il faut changer de stratégie, quoi. Mais il y a vraiment un travail de calcul mental qui est intéressant dans Multiplay.
Pratique de calcul mental avec des jeux de cartes.
Dernier type de jeu, bon, j'ai évidemment choisi, j'ai ciblé, parce que des jeux de calcul mental, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un jeu de cartes qui est récent. Vous connaissez peut-être le jeu Double qui fait fureur chez les jeunes, pas que chez les jeunes d'ailleurs, c'est bien Double. Et Double, le principe, c'est qu'on retourne des cartes, et quand on a deux cartes devant soi, il y a toujours une association possible de dessins, de figurines, etc. Il faut trouver l'association. Et le créateur de Détective Mathéo a eu l'idée de reprendre le principe avec des opérations. Donc là, vous imaginez, le paquet de cartes est posé devant vous. Vous retournez la carte du dessus où il y a 6 multiplications. Et regardez la photo suivante, vous vous retrouvez avec 6 résultats. Et il y a toujours une association. Donc là, le premier qui dit 25, voilà, ça a été dit par là-bas, c'est gagné. Donc celui qui a dit 25 a gagné. Alors, il a pas gagné grand-chose, hein, il a gagné la carte. Hein. Donc, il gagne la carte et on retourne la suivante. Voilà. Donc, ça, c'est un bon jeu pour travailler les automatismes, pour le coup. Hein, on n'est pas dans le calcul mental réfléchi, on n'est pas trop dans le à l'envers. C'est automatisme. Voilà, vous travaillez les automatismes. Donc là, vous retournez la carte suivante et il y a toujours une association. Dans le paquet de cartes Détective Mathéo, il y a des cartes bleues et jaunes multiplication. Vous avez des vertes en soustraction, une autre couleur en addition. Il y a les trois premières opérations. Il ne doit pas y avoir la division. Et donc, le principe est très sympa. Moi, je l'ai au club jeu. Ah oui, alors ce que je n'ai pas dit aussi, le multiplay, le numériplay, bon, le numériplay, je ne l'ai pas au collège, mais le multiplay, je l'ai au club jeu. Et je ne m'en sers pas en classe, parce qu'un plateau, ça paraît difficile de jouer en classe, sauf à faire des... En primaire, je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui font de temps en temps des temps-jeux. Donc si vous faites à un moment donné une demi-heure jeu, vous pouvez très bien faire des ateliers avec un atelier numériplay. Donc vous aurez un atelier Magix 34, un atelier multiplay, un atelier Matador Flash, Détective Mathéo. Donc là, vous pouvez multiplier les jeux. Mais sinon, moi, ce type de jeu-là, je ne m'en sers pas en classe entière à 25-30.
Application pour tablette et Lientis.
Les tablettes arrivent. On a tous entendu parler. Maintenant, il va falloir, bon, quand on en aura, s'en servir. Alors, nous, on a travaillé avec Canopée Besançon. Il y a l'appli Matador qui est déjà là. On en prépare 3 ou 4 autres qui vont sortir dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc, on essaye d'être présent sur le créneau calcul mental. Alors, pour Canopée, j'avais, entre autres, travailler sur l'existant. Donc j'avais essayé de télécharger le plus d'applis possible en calcul mental pour voir ce qui était intéressant. Je ne vous cache pas qu'il y a peu de choses qui m'ont vraiment intéressé. Il y a énormément d'applis, ce qu'on appelle les applis presse-boutons. Donc c'est totalement inintéressant. Bon, ça brille partout, vous avez des paillettes, il y a de la musique, mais c'est totalement inintéressant, c'est juste 6 x 7, il faut presser sur le 42, vous voyez, c'est l'esprit c'est ça. Bon, ça on joue, même si ça brille et puis qu'il y a des trucs, on se lasse vite. Voilà. Donc, dans les applis où il y a des choses intéressantes, en calcul mental direct, je sais qu'ABMAT, moi j'ai trouvé ça pas mal, il y a pas mal de jeux différents, c'est quand même assez intéressant. Donc Matador, vous regarderez si ça vous intéresse. Sur les fractions, et c'est utilisable en primaire, Slice Fraction est vraiment bien. C'est une appli canadienne qui est très très bien. Dragon Box, alors c'est quand même plus collège, mais il y en a deux. Il y a Dragon Box 5+, donc ils disent à partir de 5 ans, même si c'est quand même un peu... Mais utilisable en primaire, c'est sur le... Alors on est dans le domaine du numérique et c'est sur un peu une initiation à la technique des résolutions des équations. Mais c'est très très fort, c'est visuel, c'est assez étonnant. C'est norvégien, Dragon Box, et c'est vraiment très très bien. Ça, en tout cas, c'est ça fait du buzz dans le monde entier, c'est une très grosse réussite. Pour finir, sur les liens, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, on en parlait à la pause, qui connaissent Matou Mateux. Mathématiques magiques est d'une incroyable richesse en termes d'activité ludique dans le monde du calcul. Alors Matador, on a joué tout à l'heure, donc on ne va pas rejouer. Calculatis, c'est très très bien. Moi, alors, je me sers beaucoup de Calculatis pour la partie calcul mental à l'endroit. Donc tout ce qui est petit jeu où on attend la réponse, c'est l'Académie de Lille qui est derrière Calculatis. Et puis Matador et Trio pour le calcul mental à l'envers. Et de jongler, si vous arrivez à pratiquer les deux dans vos classes, vous allez mettre en place une gymnastique due à l'endroit, due à l'envers. Voilà. Et ça, c'est super important. Et vraiment, Calculatis, c'est très très bien. Il y a un rallye d'ailleurs Calculatis cette semaine qui est très très sympa. Juste un truc, Matou Mateux, il y a plein de séries de calcul mental qui sont déjà faites, donc vous pouvez les passer en classe. Le seul petit reproche que je fais, c'est que ce sont très souvent des séries thématiques. C'est-à-dire, vous allez avoir, par exemple, une série 10 additions, une série 10 soustractions, une série 10 multiplications. Et ça, il ne faut pas en abuser, je pense. D'en faire de temps en temps, pourquoi pas, mais il ne faut surtout pas faire que ça, parce que sinon, vous cloisonnez dans la tête de vos élèves une opération puis après une autre, puis... alors qu'en fait, il faut qu'ils jonglent. Hein, c'est pour ça qu'il faut faire du trio, du matador, pour avoir du jonglage sur les quatre opérations. Mais c'est vrai que de temps en temps, de travailler une opération, bon, donc peut-être les deux, mais surtout pas que des séries thématiques. Sinon, vous allez les enfermer dans des schémas un peu imposés. Voilà, bah pour terminer, l'idée c'était donc, voilà, les jeux, c'est une façon de donner du sens aux nombres, aux opérations, aux ordres de grandeur, travailler les décompositions, recompositions. Et moi j'aime bien ajouter, pourquoi pas établir une relation amicale avec eux, hein, parce que je vous assure qu'au collège, le nombre d'élèves qui ont déjà un peu décidé que les maths c'était plus trop leur truc, voilà, en primaire, je pense qu'en primaire le problème est moins fort. Donc, et je pense que c'est là qu'on peut fabriquer une image positive. Donc si on joue avec quelque chose, a priori on s'en fait une image positive. Je prends souvent l'exemple des lettres. Vous avez plein d'adultes français qui jouent, qui font des mots croisés, qui font des mots fléchés, qui sont capables de faire une partie de Scrabble. Vous leur dites, on va faire une petite partie de calcul mental, vous risquez d'avoir des petits soucis. Voilà. Bon. Et ça, c'est vraiment culturel. C'est parce que ces gens-là n'ont jamais joué avec les nombres. Quand ils étaient enfants, on ne jouait pas avec les nombres. S'ils avaient joué avec les nombres, ils feraient une partie de Matador parce que voilà, on joue avec les nombres. Et bien ça... ça peut changer avec le temps si on arrive justement à mettre cette idée de relation amicale avec les nombres. Et ben voilà, j'ai terminé. Et donc, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. S'il y a des questions, j'ai mis mon email si vous souhaitez avoir d'autres infos par la suite. Et j'espère vous avoir convaincu que l'idée de jouer était une bonne chose en classe. Merci.
Conférence organisée par l'Atelier Canopée de Lyon. Enregistrée le 16 mars 2016. Enregistrement, mixage et mise en ligne, Canopée Site de Lyon.